Vous êtes en confinement
Ouais.
total, pas total, match total.
En fait, bah, c'est confiné. Je te dirais que bah, tous les commerces non essentiels sont fermés. Donc, bah, évidemment, il reste les pharmacies, les épiceries, bah, ce genre de commerce là, essentiel. Sinon, on est confiné. Enfin, on a une. Comment on appelle ça? Un couvre-feu. C'est ça, un
D'accord.
couvre-feu. On n'en a jamais vécu dans. Dans nos vies, alors ça fait tout bizarre, un couvre-feu de 20h le soir à 5h le matin.
D'accord. Nous, aujourd'hui, depuis une semaine, on est en couvre-feu. C'était que certains départements il y a quelques semaines. Et depuis la semaine dernière, toute la France est en couvre-feu de 6h, de 18h à 6h du matin.
Ouais, j'ai encore trois frères là qui sont en France, puis
D'accord.
je communique avec eux, puis ils me disent ouais. Ouais, c'est pas drôle là, mais bon, pour arrêter la pandémie, regarde, tout ça.
Ben oui, il faut trouver des solutions pour arrêter ça.
Ouais. Non, définitivement. Tu sais, il faut que. Eric, en tout cas, bah, merci de ta présence.
Ben, ça fait plaisir.
C'est apprécié, hein, comme je t'avais dit dans le courriel, en fait, c'est dans le cadre de d'un. On va dire d'une infolettre qu'on envoie à nos officiels qui s'appelle Entre les lignes, où on parle d'arbitrage, on parle de tout ça. Et puis, en discutant avec Yves, que tu connais, Yves Lacroix.
Il la croit, oui.
Ouais, Yves Lacroix, qui, bah, évidemment, qui est au Québec, on s'était partagé l'idée de dire hey, si on avait la chance de discuter avec des officiels francophones, pour avoir un petit peu leur expérience, puis qu'on puisse partager cette expérience avec les officiels du Québec. Puis c'est ça, on avait dit, bah, ça peut être une bonne idée. Puis moi, je dis à Yves, tu connais plein de monde, des
Ah
officiels francophones, t'en connais plein. Parmi tous ceux que tu connais, quels seraient ceux qui seraient bah, intéressants, avec qui on pourrait discuter? Puis ben, Eric, ton nom est ressorti. Puis ben, moi, j'ai toujours eu. Alors j'ai toujours eu ton nom dans ma tête, dans le sens. Alors je me trompe, mais je ne sais pas où est-ce qu'on s'est rencontrés. Mais c'est sûr, on s'est rencontrés parce que je me souviens de toi. Donc
Il me semble que c'était un stage Sobja que j'ai dû animer dans l'est de la France, donc du côté de Montbéliard, non pas Montbéliard, mais
ouais, bah c'était dans ces coins-là, mais c'était en quelle année? Parce que.
alors là, c'est très vieux par contre. Quand tu m'avais envoyé le mail, j'avais essayé de retrouver l'année, je l'ai perdu depuis. C'était vraiment vieux parce que je crois que j'avais remplacé Jean-Louis Kellhoffner
OK.
qui était indisponible. Il me semble que c'est cette occasion-là où on s'est vu. Et puis on s'est vu également, là je suis sûr aussi, c'est en championnat de France où on a officié ensemble et c'était dans l'Est aussi. Donc j'en ai fait plusieurs dans l'Est,
OK.
du côté de Lyon, de Chambéry, dans ces eaux-là, j'en ai fait plusieurs. Donc, un cela, j'en ai fait un cela avec toi.
Ouais, parce que je me rappelle, bon, bah, Chambéry, je pense que quand j'y étais allé, moi, c'était pour la validation de mon statut d'arbitre national.
D'accord.
Il y avait Mich qui était là. Il y avait qui? Il y avait la Mich, il y avait. Ah, je sais plus trop qui. Bref, j'étais persuadé qu'on avait passé le stage d'arbitre national en même temps.
Non.
Je sais pas, ça te.
Pour une bonne raison, c'est que je ne suis pas arbitre national.
Ok, eh ben, tu vois, regarde, je sais pas pourquoi, j'avais ça dans la tête, puis mais je regarde, tu vois, comme quoi. Moi, ça fait. Je suis au Québec depuis 2006. Ouais, c'est 2006.
J'avais entendu parler de ton départ. Je ne sais plus qui m'avait parlé de toi. L'année où tu es parti, on m'avait dit, ah, Christian, elle est partie. Bon, ben, j'ai dit oui, effectivement, je le connais. Et à ce moment-là, on s'était côtoyé quelques
Ok.
temps avant seulement. Depuis, du coup, ça commence à faire un bail. Donc, on a dû
Ouais.
se côtoyer dans le début des années 2000.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Dans ma tête, j'avais, bah, c'est ça, les années 2000. Puis effectivement, j'étais allé au championnat de France senior à C'était dans le nord, style Roubaix ou Lille ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, peu importe. Mais bon, c'est ça, on s'est déjà rencontrés. Puis, mais j'ai toujours eu, c'est ça, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu ton nom et ton prénom dans ma tête, ce qui fait que bah, quand j'ai appris que tu étais devenu arbitre en chef BWF, je dis waouh. Waouh, quelle progression, quel homme.
J'ai fait du chemin. Alors,
Ouais, non.
ça m'a fait beaucoup rire ton questionnaire. Excuse-moi de me moquer un petit peu, mais quand tu as mis arbitre en chef, en fait, on n'appelle pas ça comme ça chez nous.
Eh ouais, eh ouais. Bah oui, moi quand je suis arrivé ici, quand on m'a dit arbitre en chef, ok, c'est les juges arbitres. Ok. Mais j'ai, pareil. Tu sais, j'ai beaucoup de relents français. Puis moi, ça a toujours été juge-arbitre, mais c'est ça, on est au Québec. Puis.
D'accord. C'est sourire,
Ouais.
sympa.
Ouais, non. Puis il y a certainement des expressions ou des termes au bout de 15 ans. Hein, puis ma copine est québécoise. Donc, tu sais, puis quand tu regardes la télé, tout est en québécois. Tout est. Bon, regarde. Donc c'est ça. Alors comme je te disais, je vais enregistrer notre petite conversation. J'espère que ça te dérange pas. Ok. Et puis pendant que j'y pense et avant que j'oublie surtout, je sais pas si tu pourras, tu sais, m'envoyer une photo de toi en tenue officielle entre guillemets. C'est une photo où il n'y a pas de droit de. Si tu peux, regarde.
Oui, je t'enverrai ça ce soir ou demain.
Ouais, regarde, y a pas d'urgence parce que de toute façon, moi je vais retravailler la vidéo, tu sais, je vais donc j'ai quand même du boulot avant de diffuser ça à nos officiels. Il y a quand même pas mal de travail. Donc sans plus tarder, on va commencer. Parce que je veux pas non plus te prendre trop de temps. Là, il est quoi? Il est 20 h hein, en France, donc.
Il est 20h10. Ce soir, j'ai le temps. Hier soir, j'avais un petit rendez-vous après, mais ce soir,
Ouais, mais je veux pas non plus, tu sais,
j'ai
te tenir la jambe trop longtemps non plus, là, je veux
pas
pas.
besoin.
Donc, Eric, comme je te disais, merci beaucoup. La première question, alors, effectivement, tu as eu la chance de les lire, mais est-ce que tu as été un joueur de badminton et est-ce que tu es encore un joueur de badminton, si tu l'avais déjà été?
Alors, j'ai été un joueur de badminton, hein. Je ne le suis plus, c'est par ça, je ne le suis plus parce que j'ai quelques problèmes de dos il y a une petite dizaine d'années, ce qui m'a fait arrêter le badminton en tant que joueur. Mais j'y ai joué pendant presque 20 ans. Presque 20 ans.
Ok, donc ça fait 20 ans. Et puis, c'était quoi ton niveau? Juste comme ça,
Ben,
là, c'était.
j'étais à un niveau interrégional en France.
Ok.
Interrégional, donc je jouais en individuel, j'étais en interrégional et en équipe, je jouais en national, j'ai joué jusqu'au national 2.
Ok, ah, c'est bon.
Un niveau correct, mais
Waouh.
voilà. Jamais un vrai niveau national, je jouais un niveau interrégional pendant quelques années, je me suis fait bien plaisir, jusqu'à ce que mes problèmes de dos deviennent
Ben, c'est
trop
ça. Après
récurrents,
là.
j'ai préféré arrêter plutôt que de surblesser, et du coup, je me suis 100% au juge arbitrage, alors qu'auparavant, j'alternais un petit peu le plaisir du joueur et le plaisir de
Ok, cool. Alors, quand as-tu décidé de te lancer dans l'arbitrage? C'était quoi ta première motivation?
l'arbitrage. Alors, ma première motivation, ce n'était pas une motivation, j'ai décidé de me lancer dans l'arbitrage parce que quand j'ai commencé le badminton, donc c'était il y a exactement 30 ans cette année, je me suis lancé dans le badminton et je suis devenu dès l'année suivante président de mon club. Président qui était à l'époque la CTBC Bombay, on m'a un peu regardé en disant tu fais quoi, Eric, tu veux pas reprendre? Ah, je me suis dit bon, pourquoi, c'est un peu tôt, mais j'ai repris. Et puis très rapidement, quelques années plus tard, la Ligue de Bretagne, donc, organiser un stage de juge arbitre et quand j'ai fait une demande à mon club pour essayer de trouver des volontaires, je n'en ai pas trouvé. Donc là, je me suis décidé à y aller. Presque un malentendu en fait. Hein. Bon, j'avais un petit peu la vocation quand même organisateur de compétition, etc. J'étais déjà très impliqué parce que c'était un peu ma nature. Mais le stage en lui-même et la formation ensuite d'arbitre et de juge arbitre, marketing, c'est vraiment pour rendre service à mon club dans un premier temps parce qu'il en fallait un. Et finalement, c'est devenu un grand plaisir, une vocation.
Ouais, ça me fait vraiment penser un peu comme moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans la région Franche-Comté, qui est une petite région, il y a toujours le club de Morteau, avec toujours les mêmes bénévoles, et puis les mêmes joueurs, hein. La famille Césari, il y a toujours Kostia, Natacha, et toute cette équipe-là. Avec qui je suis? Ouais, Lionel. Je suis encore en contact avec eux, un petit peu, à distance, évidemment, mais en fait, c'est un peu pareil comme toi, c'est un peu sur un concours de circonstances, ils avaient besoin d'un arbitre national pour accompagner la Nationale 3, ou la Nationale 1 à l'époque. Ils étaient montés en Nationale 1, et ils avaient besoin d'un officiel. Et puis là, on s'est regardé tous. Qui veut suivre le stage d'arbitre national? Puis là, tu sais, parce que les gars, c'est important. Là, on va monter en national, puis ça va prendre. Hein. Puis là, un peu timidement, moi, je veux bien. J'ai mis le doigt dans l'engrenage, puis là, le bras y est passé. Donc, c'est un peu comme ça aussi. Tu sais, j'étais organisateur de club, puis. J'organisais des tournois, j'étais président de club, comme toi. Puis c'est ça, à un moment donné, il y a besoin d'un bénévole, puis là, tu lèves la main.
Voilà.
Sans trop savoir au départ dans quoi tu t'embarques.
Oui, souvent, sans trop savoir. Et puis finalement, il n'y a pas du tout de regret. Hein.
Oh.
Absolument pas aujourd'hui. Mais même pendant toute ma petite carrière régionale et fédérale au début, il n'y en avait pas du tout. Mais en France, donc, depuis, ça m'a permis de faire de belles choses.
Ah ouais, non, définitivement.
Et je suis toujours dans mon club, même si je ne suis plus joueur. J'ai gardé ma licence dans mon club et je vais les voir au moins une fois par an pour mon national club. Et parce que j'ai encore quelques
points à
différents âges.
Ouais, non, on n'oublie pas nos premiers amours. Hein.
Non,
c'est impossible, ça.
C'est difficile. J'imagine même pas de changer, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a certains clubs d'alentour qui me sollicitaient pour être le juge arbitre de leur club parce que, pour des raisons de structuration de notre fédération, il fallait un juge arbitre d'un certain niveau, un arbitre d'un certain niveau dans chaque club. Mais j'ai dit non, moi, c'est mon club, c'est Saint-Jacques-de-la-Lande, ça reste
c'est
pas mon club et j'irai nulle part ailleurs. Le jour où j'arrête le badminton, je ne serai plus dans ce club-là, mais je ne vais pas changer de club.
Puis autant je me souviens, Saint-Jacques-de-la-Lande, ils avaient une bonne équipe en national aussi.
Alors, ils ont toujours, on est monté aux portes de la Nationale 1. On était en Nationale 2 pas mal d'années.
Oui.
Et on a fait barrage de Nationale 1 l'année, on a échoué. C'était un peu juste pour être en Nationale 1 quand même. Et on a été de longues années en Nationale 2. Et le club est aujourd'hui, depuis pas mal de temps, il est descendu au Nationale 3. Et maintenant, ils sont stabilisés au Nationale 3. Et c'est même une bonne équipe de N3.
Ok.
Ils ont des ambitions.
Ah oui, parce que moi, je me souviens de Saint-Jacques-de-la-Lande. Alors après, tu dis National 2, puis ça devait être ça pour avec Morteau également.
On a joué à National 2 contre Morteau.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je me souviens très bien de cette équipe. Une équipe super conviviale. Ils se prenaient pas la tête. C'était pas les champions du monde. C'était de très bons joueurs, mais une belle ambiance. Je me rappelle de ça.
C'est une vraie équipe de club. Quasiment tout le monde formé au club. De temps en temps, un joueur d'un club aux alentours qui le club ne perçant pas, et nous étant à un niveau national 2, le meilleur niveau dans la région à l'époque, on a été doublé depuis le gros club breton à l'époque. C'est vrai qu'on arrivait à avoir quelques joueurs des clubs aux alentours qui avaient envie de venir un petit peu toucher le niveau national 2. Mais c'est resté dans un esprit club. C'est pas ce que c'est aujourd'hui, par exemple, où dès qu'on arrive en National 2 ou National 1, on achète entre guillemets les joueurs parce qu'il y a besoin de joueurs étrangers pour rester à un très haut niveau. À cette époque-là, presque tous les joueurs étaient des joueurs de club ou presque.
Ça change. Ça change. Donc, pardon, à la question, combien d'années es-tu officiel? Tu y as déjà répondu.
Oui. J'ai commencé à 20 ans de badminton et puis que début de l'arbitrage depuis.
Ouais. Peux-tu m'excuser 10 secondes? Je reviens, excuse-moi Eric.
Oui, bien sûr.
Ouais, excuse-moi, je suis tout seul au bureau, alors je réponds à la porte, là je réponds pas au téléphone, mais bon. Alors, pourquoi la fonction d'arbitre en chef plutôt qu'arbitre de partie?
Parce que très vite, je me suis rendu compte que je le préférais. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en arbitre de partie, je n'ai pas été plus loin, plus haut que le niveau régional. J'ai été régional dans les deux grades, donc arbitre en chef, on l'appelle à Québec, et puis arbitre de partie. J'étais régional dans les deux et je me suis vite rendu compte, parce que j'ai une appétence pour l'organisation depuis toujours, même si ce qu'on appelle un juge arbitre en France n'est pas un organisateur, mais c'est quand même très proche, relativement proche de la partie d'organisation. Donc, et une appétence particulière pour ça depuis toujours, hein, dans tout ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. J'organisais grandes vacances, j'organisais les Jeux Olympiques, etc. J'ai toujours eu cette envie d'organiser les choses. Donc, je suis passé très, très naturellement de cette fonction de juge arbitre régional à plus haut niveau. Sachant qu'en France, il y a quand même une particularité que nous, dans beaucoup de pays, il y a une grosse structuration des officiels techniques avec un nombre d'officiers techniques très important. Et du coup, au-delà du niveau national, on est obligé de choisir en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être arbitre en partie et arbitre en chef international dans les deux grades en France, alors que dans beaucoup de pays, c'est accepté. Nous, on doit, compte tenu du nombre de candidats potentiels, on doit choisir sa voie. Moi, je n'ai pas attendu d'être national dans les deux. Au niveau régional, déjà, j'ai tout de suite su que ce qui m'intéressait le plus, c'était le juge
C'est l'arbitre.
arbitre. Voilà la raison pour laquelle je me suis fait. Et puis, très vite, j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Et puis après, ce contexte, j'ai eu quelques opportunités de passer au grade au-dessus, etc. J'ai accepté tout de suite. J'ai eu un bon parcours, donc du coup, ça m'a encore plus motivé pour rester dans cette voie-là. Donc du coup, je ne suis que arbitre régional. Alors, c'est ce que je dis aux gens que je forme en juge arbitrage en France. Je forme les juges arbitres français. Et je leur dis, je ne suis que arbitre régional parce qu'ils croient que j'ai un super niveau d'arbitrage. Pas du tout. Mais je leur dis toujours, attention, je n'ai pas le niveau, la pratique d'arbitrage d'un arbitre de haut niveau, mais j'ai la connaissance technique. C'est-à-dire que je connais les règles, mais je suis obligé, en tant que juge arbitre, d'apprendre et de réapprendre et de réviser comme le font les arbitres
Ah oui.
de terrain, les arbitres de partie. Moi, j'ai l'habitude, quand je vais sur un tournoi international, de revoir aussi les règles, parce que quand on est appelé sur un terrain par un arbitre de partie et qu'il y a une hésitation sur un point de règlement, c'est rare à ce niveau-là, mais ça peut arriver de temps en temps. Il faut les connaître aussi bien qu'un arbitre de chef. Hein.
Ah ouais.
Donc, je révise mes règles, mais je n'ai pas effectivement ce niveau d'arbitrage sur la chaise contre mes collègues que je côtoie.
Ouais, c'est, tu vois, au Canada, c'est un petit peu différent. Là, par exemple, la Fédération internationale a lancé un processus pour aller un petit peu plus rapidement pour certains arbitres en chef. Bah, de faire une formation un petit peu accélérée, on va dire. Et puis, bah, dans chaque province, en fait, on a demandé des arbitres de niveau national. Si tu es arbitre régional ou provincial, on va dire, au Canada, provincial, tu ne peux pas prétendre à cette formation accélérée. C'est vraiment, il faut déjà avoir le statut d'arbitre de partie nationale. C'est un prérequis, tu ne peux pas, comme en France, comme tu dis. Et j'ai été surpris quand tu m'as dit ça, parce que c'est vrai que pour en avoir discuté, même avec d'autres officiels, en tout cas au Canada, c'est sûr que si tu n'es pas national en arbitre de partie, tu ne pourras pas évoluer en arbitrage en chef ou en juge arbitrage. Mais bon, chacun a ses manières de fonctionner.
Si tu veux, effectivement, le niveau régional s'impose quand même, hein, parce que le niveau
Oui.
régional il n'est pas très élevé en France quand même. Mais après, c'est pas obligatoire. Certains le font, mes collègues, la nouvelle génération qui arrive après moi, parce que j'ai quelques juges arbitres qui arrivent au niveau international, il y en a un qui est national, effectivement, en arbitre. Mais voilà, après qu'il ait passé son grade national, il a pratiquement arrêté l'arbitrage dans la foulée parce qu'il avait envie d'avoir ce grade-là.
C'est ça.
Mais ce n'était pas une vraie vocation, c'était pour se dire, je crois que j'ai besoin d'être arbitre national pour aller vers le haut niveau en juge arbitrage, alors qu'en fait, moi, j'ai une attitude différente en disant, le grade national d'arbitre ne m'apporte rien, par le plaisir de l'avoir
Oh
si
ouais.
je passe, et si je l'ai, bien sûr. Mais par contre, je sais que je dois toujours continuer à me perfectionner dans les règles
C'est ça.
d'arbitrage, même si je ne suis jamais sur la chaise.
Oui,
J'ai cette obligation-là.
t'as pas le
Donc,
papier, mais tu as les connaissances. Puis
je ne perds pas ça de vue quand même, parce que c'est important.
ouais, tout à fait. Ouais. Selon toi, depuis toutes ces années, donc depuis le grand nombre d'années que tu officies comme arbitre en chef ou juge arbitre, c'est quoi, selon toi, les principales évolutions dans les compétitions?
D'évolution d'arbitrage plutôt, alors, des
Bah, peut-être plus
compétitions.
d'arbitrage en chef. De juge
Ouais,
arbitrage.
alors, sur la structuration en tant que juge arbitre, effectivement, sur le niveau fédéral déjà, il y a une beaucoup plus grosse structuration, de plus en plus, chez nous en tout cas, une structuration des officiels techniques à tous les grades, avec un nombre très très important, avec une structure, avec de la présence aussi y compris à notre niveau. Au niveau international, ce qui a vraiment marqué, à mon avis, le badminton international, ça a été le lancement des Super Series,
Okay.
qui maintenant est le BWF World Tour, mais au départ, les Super Series, c'est-à-dire le lancement du projet, pour moi, a changé beaucoup, beaucoup de choses. Il a changé beaucoup de choses pour le badminton, mais il a changé aussi beaucoup de choses pour les officiers techniques. Parce que, pour le coup, les enjeux financiers, télévisuels, médiatiques étant tellement importants, qu'il était utile et indispensable d'avoir des officiels techniques qui soient à la hauteur de l'enjeu, quoi. Alors, pas dire qu'avant il n'était pas, mais en tout cas, les enjeux, les ambitions, le stress, les problématiques des joueurs, les qualifications olympiques, même si enjeux, il devient avec son niveau de compétition et cet apport financier au badminton, important d'avoir des officiers techniques de très haut niveau. Et la deuxième marche, celle qui a été franchie il y a pas très très longtemps, c'est en 2018, pour les juges arbitres et pour les arbitres de partie, c'était en 2020, c'était en mars 2020, le semi-professionnalisation des officiers techniques. C'est pour moi la deuxième marche, la première étant les tournois eux-mêmes, la qualité des tournois, de prestations, et la deuxième marche, c'est semi-professionnalisation des officiers techniques. Qui du coup crée une espèce d'émulation avec des contrôles réguliers, des appraisals réguliers pour chacun des officiers techniques de haut niveau et en particulier des semi-professionnels encore plus que les autres. C'est-à-dire que
Oui.
si on fait 6 tournois par an, on va être apprécié 2 ou 3 fois avec des assesseurs qui vont rester avec nous toute la semaine et qui vont forcément nous obliger d'une certaine manière. à garder cette qualité et ce standard et nous pousser vers le haut. Donc, pour moi, les deux points fondamentaux, c'est ça.
Il y avait une question sur la semi-professionnalisation. Là, tu viens d'y répondre, c'est parfait, mais la question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que toi, c'est quelque chose qui te tente de devenir, tu l'es peut-être, je ne sais pas, mais de devenir semi-professionnel?
Alors, je vais répondre à deux questions à la fois. Oui, ça me tente, et deuxième question, je le suis.
Ok, je ne savais pas.
Ça m'a tenté, je suis même un des quatre premiers à l'avoir été, parce qu'en fait, ça a commencé par les juges arbitres. Et dans un premier temps, c'était en 2018, la Fédération mondiale en a sélectionné 4 parmi ceux qui postulaient, parce qu'il fallait postuler parmi un certain nombre de contraintes. Et j'étais parmi les 4 premiers, donc effectivement, je le suis depuis 2 ans et demi.
Ok.
2 ans et demi. Donc effectivement, ça m'a forcément plu parce que je voulais aller encore plus haut. En grade, en tournoi. Donc, du coup, je voyais mal comment arriver vers ce très très haut niveau sans faire partie du wagon du semi-professionnel.
Ah ouais.
On va y revenir peut-être.
On pourra peut-être en reparler un petit peu plus longuement au moment de la question sur la semi-professionnalisation. C'est compliqué à dire ça, hein? Semi-professionnalisation. Ok, mais je ne savais pas, je le savais pour Fabio Beto.
Oui, Fabio, c'est plus récent, c'est l'année dernière, 2020.
Ok.
Il était aussi, lui, un des premiers arbitres, mais ils ont commencé, la BWF a commencé d'abord par les juges arbitres, ils ont attendu un an et demi, et ils sont passés aux arbitres. Donc,
d'accord.
C'est moi déjà 2 ans et demi que je suis.
Ok. Dans quelle compétition as-tu déjà eu la chance de, quand je dis d'arbitrer, de juge arbitré, on s'entend.
Les compétitions majeures, parce que j'en ai fait beaucoup forcément. Alors, j'ai fait quelques mondiaux jeunes, des mondiaux vétérans. J'ai fait aussi des compétitions continentales, championnats d'Europe, etc. Et puis, les plus grosses compétitions que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à présent, en dehors des tournois de WF World Tour, c'est les Thomas Sudierman et Thomas Superkirk.
Okay.
Et en plus, ces deux compétitions-là, les années où moi je les ai faites, parce que je les ai faites une fois chacune, les deux étaient en Chine, et ça restera des souvenirs extraordinaires, parce que la Chine est un des grands organisateurs de la Chine, un des très grands organisateurs de la Chine. Donc c'est vrai que, voilà. Beaucoup de compétitions, je pense qu'on parlera des tournois après, mais en termes de compétitions majeures, ce qu'on appelle des Double Events, j'ai fait le Thomas Supercup, Sudirman et quelques championnats du monde.
Oh ouais. Ton meilleur souvenir, c'est des compétitions individuelles ou par équipe? J'ai cru comprendre par équipe, mais.
Oui, parce que par équipe, il y a quand même un état d'esprit. Alors, on parlera d'une compétition jeune en particulier, parce que je crois que c'est une des questions, mais une compétition individuelle, pardon. Mais en ce qui concerne les compétitions par équipe, je pense qu'il y a une ambiance qui est quand même très particulière et qui vraiment, moi, me plaît plus que le reste. Quand j'étais moi-même joueur puis président de club, c'était également les compétitions par équipe que je préférais. Donc c'est vrai que l'ambiance de la Thomas Super Club et de la Sudirman est juste extraordinaire. C'est quelque chose de dingue.
Mais. Ça va te paraître fou ce que je vais te dire, mais au Québec, parce que je ne veux pas étendre ça au Canada, je ne suis pas suffisamment expert, mais au Québec, il n'y a pas d'interclub. Il n'y a pas de compétition interclub. Donc les officiels ne connaissent pas l'interclub. C'est triste, je trouve. C'est triste à dire.
C'est dommage, oui. C'est dommage.
Ouais, parce que.
C'est beau, c'est une belle compétition, c'est un bel
événement. Regarde.
Et on l'a connu tous les deux avec le Morco ou avec Saint-Jacques en compétition nationale. Ouais. Interclub a déjà rien qu'à ce niveau-là. C'est déjà très, très, très belle compétition.
Moi, j'ai toujours dit, puis bon, ça fait 15 ans que je travaille chez Badminton Québec. Il y a 5-6 ans, peut-être même plus maintenant, je ne me rappelle plus, mais j'ai monté un interclub. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, évidemment, au bout d'un certain nombre d'années, je connais beaucoup de gens. La fédération est à Montréal, donc. Et j'ai monté, c'est-à-dire que je suis allé voir des gens que je connaissais bien, qui sont des amis, en disant « Hey, dans ton club, est-ce que ça t'intéresserait ?» J'ai fait du démarchage, je me suis battu pour avoir 5 clubs. L'année d'après, on a eu 6 clubs, l'année d'après, 7 clubs. Puis d'un coup, d'un seul, ça s'est arrêté parce que c'était compliqué. C'est pas la mentalité ici, l'interclub. Amérique du Nord, très individuel. L'interclub, c'est compliqué. Déjà, tu sais, tous les clubs payent pour louer leur gymnase.
Ah, d'accord.
Les gymnases ne sont pas loués gratuitement ou très rarement.
J'avais des gymnases municipaux gratuits.
Pognon.
Oui, donc forcément ça rajoute une couche de difficulté.
Tu es dans le pays du pognon ici. Si tu n'as pas d'argent, tu ne fais pas. C'est bizarre ce que je dis là, mais. Tu sais, venant d'un pays latin où c'est différent, tu sais, arriver ici, c'est pas évident parce que c'est une autre mentalité, puis c'est correct en même temps, là, je veux dire, on n'est pas tous pareils. Mais l'interclub ou les compétitions par équipe, c'est ça que je veux aussi essayer de faire partager aux officiels. Parce que quand tu as connu ça, c'est ce qui m'a accroché à l'arbitrage. À l'arbitrage en chef. Même à l'arbitrage de partie, c'est les compétitions par équipe.
Les officiels techniques canadiens et québécois de ça, parce que j'en connais quelques-uns de très bons d'ailleurs, qui ont eu l'occasion, parce que je me rappelle bien, en fait, d'être avec moi, les deux, je crois, avec Thomas Zuberke, ils ont vu cet état de cette ambiance-là. Je pense qu'ils sont aussi convaincus que toi et que moi.
Ah!
J'imagine en tout cas, parce que c'est quand même quelque chose de fantastique.
Il y a les Jeux du Canada qui est une compétition par équipe.
D'accord.
Mais je veux dire, hormis celle-là.
Et les distances entre les clubs sont peut-être aussi très grandes chez vous.
Ah, ouais. Définitivement.
Oui, mais ça n'aide pas non plus.
Ah. Non, c'est plus compliqué pour plein de choses. Le Québec, c'est, je sais pas, je me rappelle plus si c'est pas 3 fois comme la France. Là,
c'est sûr que. Le Canada.
Mais tu sais, dans la région de Montréal, t'as quand même Montréal et sa grande banlieue, t'as quand même pas loin de 4 millions de personnes. Tu sais, c'est avec beaucoup de clubs, mais c'est pas dans leur. C'est ça. C'est pas dans leur. C'est ça. Puis c'est correct. Mais sauf que ça, j'avoue que c'est ce qui me manque. Mais bon, regarde, je vais arrêter de pleurer. c'est une autre réalité, là, je veux dire. Alors, quel est ton meilleur souvenir de juge-arbitrage et également le plus mauvais?
Alors, mon meilleur, très clairement, pour ça que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, avec la Thomas Sugar et Sigerman comme étant un de mes plus grands souvenirs, parce que je savais qu'on avait passé au tournoi individuel.
Bah oui.
L'Indonésie Open. C'est autre chose. Pour moi, j'avais des poils hérissés sur les bras pendant toute la durée de la compétition. C'était incroyable. Juste incroyable. Donc, je l'avais entendu dire. Je l'avais vu quand j'ai commencé le badminton en club, donc il y a 30 ans, mon petit frère qui jouait aussi avec une cassette vidéo. Une cassette vidéo encore, avec l'Open d'Indonésie, on avait vu ça en cassette, on s'était dit, waouh, c'est dingue, les gens sont aussi passionnés de ça. Et quand tu le vois en vrai, eh ben, ça fait un coup quand même, parce que c'est juste incroyable. Moi, quand je suis sorti de ce tournoi, j'ai dit, mon premier vœu, c'est de revenir. On n'a pas envie de quitter ce moment-là. J'ai fait presque tous les plus gros tournois du monde et je me suis plu sur beaucoup pour plein de raisons. J'en ai eu beaucoup d'extraordinaires aussi. Mais l'Indonésie Open, c'est quelque chose de particulier. pour l'ambiance qu'il y a dans les tribunes, les gens qui chantent à longueur de journée, mais sans s'arrêter, il y a des breaks, à tel point que j'étais sur ce tournoi-là, j'ai fait 200. J'étais apprêté, donc j'avais un assesseur avec moi toute la semaine qui surveillait mes faits et gestes pour noter sur un certain nombre de mes comportements. Et on était l'un à côté de l'autre, pourtant, hein, elle était à la table du référé, à côté de moi. Et bien, on était obligé de se crier, okay. 50 cm de l'autre, mais on était obligé de crier pour se comprendre pendant toute la semaine. Ce qui fait que, à la fin de la semaine, au bout de 3-4 jours, j'étais presque plus en capacité de faire mes briefings parce que j'avais une extinction de voix à force de crier toute la journée à mon assesseur qui était avec moi et à force de crier toutes les personnes avec qui je voulais communiquer. Mais c'était un souvenir extraordinaire.
C'est ouais, j'imagine.
Que tout joueur passionné de badminton doit avoir une fois dans sa vie. C'est quelque chose de mythique.
J'ai un ami ici qui a fait il y a quelques années. Il est officiel, mais il a fait le tour du monde avec sa famille un petit peu. Mais c'est un tour du monde un peu ciblé. Il a quand même été sur quelques compétitions de badminton dans son tour du monde quand même. Et il m'a dit exactement la même chose. Il me dit Christian, c'est indescriptible. C'est exactement ce que tu dis. Il était à côté de sa femme. Il dit pour se parler, il fallait se crier dans les oreilles. Enfin, vous avez vécu la même chose. Lui, des tribus. Les gens, c'est ça.
Les gens
fêtent le badminton.
Ouais, les gens fêtent le badminton. Ils sont heureux d'être là. On voit, ils aiment le badminton. Ils sont passionnés. On a l'impression d'être sur une autre planète. Nous, on est sur la planète Terre. Quand on est à l'Open d'Indonésie, on est sur la planète badminton. C'est pas pareil. C'est quelque chose de plus qui est totalement hésitant. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. C'est juste extraordinaire.
Est-ce que tu prévois d'y retourner?
Ben, c'est pas moi qui décide, en fait. Hein. Les
applications
sont faites par les WWF. Et puis, en général, on ne va jamais deux années de suite de même endroit. Ouais. Souvent, on y retourne 3, 4, 5 ans après parce que tout le monde, et en particulier depuis qu'il y a le semi professionnel, c'est que chacun aille sur les compétitions mondiales. Donc, mais j'espère, c'est convaincu que je retournerai au moins une autre fois. Oui.
Et ton plus mauvais souvenir?
Ah ben, je peux pas le dire.
Ok.
Alors, je vais le dire quand même, mais je ne vais pas citer le pays. Mon plus mauvais souvenir, probablement, c'est mon assessment. BWF accrédité à l'époque où il y avait deux grades BWF parce que je suis certifié maintenant et quand j'ai passé mon accréditation BWF, je l'ai passé dans un pays européen et quand je suis avant d'arriver au tournoi, j'avais un assesseur asiatique qui venait assesser, donc me noter pour voir si j'étais en capacité d'avoir le grade d'accrédité BWF et j'ai appris quelques deux semaines avant à peu près. Je reçois un mail d'un arbitre du WWF que je connais bien de ce pays-là qui dit Eric, je suis désolé, mais tu n'auras pas d'arbitre pour notre compétition.
Oh.
Comment ça, je n'ai pas d'arbitre? En fait, tous les arbitres de haut niveau de notre pays font grève. On fait grève parce qu'on est en désaccord complet avec notre fédération sur des problématiques d'arbitrage, etc. Sans rentrer dans les détails, ils étaient en conflit avec leur fédération et leur président. Ils avaient décidé, et ils en étaient désolés pour moi, de ne pas se déplacer sur ce tournoi-là. Donc, je me suis retrouvé pour faire mon accréditation BWF sur un tournoi quand même qui avait un bon niveau continental à l'époque, un international challenge, et avec 4 arbitres étrangers, parce que chaque organisateur de tournoi invite toujours des arbitres étrangers, donc ceux-là, bien sûr, ils sont venus. Et je les remercie encore aujourd'hui, parce que sans eux, je ne peux pas faire, je ne pourrais rien faire. Si je n'ai pas quelques bons arbitres, je ne sais pas faire. Il faut des bons arbitres pour qu'un juge arbitre soit performant aussi. Et j'avais que des arbitres débutants du pays organisateur. Et j'ai passé une semaine terrible parce que je suis allé sur le terrain toutes les 5 minutes
Ouais, c'est ça.
pendant une semaine parce que y avait les joueurs avaient bien perçu que les arbitres n'avaient pas de niveau. Donc du coup, quand les décisions n'étaient pas franches et qu'elles étaient parfois fausses, ils protestaient. Donc l'arbitre m'appelait, je me déplaçais. Donc j'ai passé une semaine de stress et j'étais en examen avec le FFF.
Ah
Et quand je suis rentré chez moi, je m'en souviens, je m'étais dit, je vais faire mon rapport dans l'avion du retour. Et en fait, j'étais à peine rentré dans l'avion que j'ai dormi jusqu'à l'arrivée. Et je suis rentré chez moi et j'ai dormi pratiquement 24 heures, tellement j'étais fatigué de
ouais.
la
OK.
semaine. Et la nuit, ben, je préparais mes tableaux et mes briefings du lendemain. Et le matin tôt, je me relevais pour aller un peu plus tôt à la salle pour gérer les problématiques. Et ça a été un espèce de cauchemar, mais au final, j'ai quand même eu mon accréditation. Donc, mon assesseur a pu trouver que malgré les contraintes et malgré que pour moi ce soit pas parfait, parce qu'il n'était forcément pas parfait,
Bah
c'est
ouais.
avoir des arbitres de niveau suffisant, je m'en étais pas trop mal tiré.
Voilà, l'un dans l'autre t'a montré que même
Donc,
dans des situations difficiles, tu étais capable de gérer. Et puis,
c'est ce que j'ai essayé de faire.
c'est ça. Ok. Bon, mais t'as pas dit le pays, regarde, puis t'as pas donné beaucoup d'éléments, ce sera difficile d'aller retrouver l'information. Mais bon, écoute, ok. Alors, donc du coup, la question suivante, quel a été ton plus gros test d'arbitrage, donc une compétition avec du bruit, la présence des médias et télévision, dans un pays où le badminton est roi? Alors, l'Open d'Indonésie peut-être?
Ben oui, là, je peux dire effectivement que c'était l'Open d'Indonésie. Franchement,
Ouais, ça.
sur cet aspect-là, je crois qu'on a déjà bien parlé de cet aspect-là déjà.
Ouais. Mais
Forcément.
donc du coup, c'est ça doit être un stress donc du coup additionnel parce que non seulement tes gestes sont épiés, mais par les spectateurs également, j'imagine, qui doivent être des connaisseurs.
Je ne sais pas
Non?
s'ils sont des connaisseurs du jeu. Je ne suis pas sûr qu'ils soient des connaisseurs du juge arbitrage. Alors,
Ok.
certains d'entre eux, forcément, hein,
Non, mais si
les
tu prends
gens
une
qui sont.
décision
Ah
contre un de leurs
ben,
joueurs ou
bien sûr,
je
ils
sais
connaissent
pas.
le jeu. Ah oui,
Oui.
bien sûr. Alors, dans le même esprit que l'arbitre, hein, l'arbitre de partie, qui lui a sa affaire en live, mais effectivement, si ça ne se passe pas comme espéré avec l'arbitre de partie et qu'on m'appelle pour venir sur le terrain, j'ai aussi une décision à prendre qui va. Ou réconforter ben, le public dont tu parlais, ou pas du tout, parce que moi je ne m'en occupe pas, bien entendu.
Bien, bien, bien
Je
évidemment.
demande le protocole, c'est bien sûr d'aller voir l'arbitre et de demander l'interprétation de l'arbitre sur ce qui s'est passé, de savoir si c'est une situation de fait ou une situation de règle, parce
Oh, ouais.
qu'on n'a à intervenir que dans la situation de règle. Sur une situation de fait, on ne peut pas dédire un arbitre. Et puis, la meilleure façon pour avoir un bon positionnement en tant que juge quand on est appelé par un arbitre dans une situation difficile, ben c'est d'avoir vu au préalable ce qui s'était passé, c'est-à-dire d'avoir anticipé. Et à mon avis, l'anticipation, c'est une des plus grandes qualités du juge arbitre. D'où l'intérêt pour un juge arbitre d'être toujours, non pas ni à la buvette, ni en train de regarder son ordinateur pour faire une visio avec sa famille, machin, mais d'être concentré sur le jeu, même si on ne peut pas regarder 4 matchs en même temps. Quand on sent, parce qu'au bout d'un moment, on le sent qu'il va y avoir un problème sur un terrain, la situation commence à être tendue, etc., ben, on est un petit peu plus focalisé sur ce match-là. Et ce qui va faire la différence entre une bonne décision du juge arbitre et une moins bonne décision du juge arbitre, c'est est-ce que avant d'aller sur le terrain, entre le moment où on est appelé sur le terrain et le moment où on arrive, on a déjà pratiquement pris sa décision. C'est-à-dire qu'on attend la confirmation de l'arbitre, mais on a déjà un petit peu anticipé, on a vu ce qui s'était passé et on croit avoir la solution. Donc je pense que c'est ce qui fait la différence.
Ouais. Non, je ressens un peu la même chose à un niveau moindre, beaucoup moindre, mais quand on connaît les joueurs, on sait ceux qui sont problématiques, ceux qui ne le sont pas, qui peuvent l'être. Et puis quand on voit que le pointage se resserre, on arrive à la fin du match, puis les échanges sont serrés, bah, je vais prêter une attention particulière parce que je sais que il
Absolument.
va.
Et puis quand on voit qu'un match est tendu depuis le départ, quand on, bah, en particulier puisqu'on parlait des gros tournois avec une grosse ambiance, le tournoi asiatique, en particulier l'Indonésie, mais beaucoup de tournois asiatiques, bah, il faut être encore un peu plus vigilant parce que la foule est nombreuse, hein, c'est des grands sports quand même, hein, et donc la foule va vite s'emballer si jamais il y a une décision d'arbitrage ou une décision
C'est
de juge
sûr.
arbitrage qui n'est pas bonne, ils vont vite s'emballer. Donc il faut être particulièrement concentré, mais c'est d'autant plus satisfaisant. Moi, j'aime bien ce stress-là. Mais il y a un stress quand même. Il y a un stress qui nécessite de la concentration et le maximum d'anticipation. C'est vraiment
Ah ouais.
de mettre au monde, je pense, en jeu.
Ah, quel, ok. Bon, bah, la question, quelle est la plus belle compétition que tu as eu la chance d'arbitrer? Je la connais. Donc, c'est correct. C'est correct. Par contre, une compétition que tu n'as, bah, sur laquelle, pour l'instant, sur laquelle tu n'es jamais allé et que tu aimerais, un jour arbitrer.
Ah ben, il y en a une forcément que j'aimerais, comme tout sportif de très haut niveau, comme tout officier technique de très haut niveau, c'est les Jeux Olympiques. Où qu'il soit, pour moi, c'est le Graal en matière de sport de haut niveau. Donc, en badminton, les Jeux Olympiques sont très, très importants. Donc, mon espoir, pour l'avenir, c'est effectivement de faire partie de l'équipe de juges arbitres dès. Alors, pas des prochains, parce qu'on la connaît déjà, l'équipe, c'était l'équipe de 2020 qui a été reconduite en
OK.
2021. Mais pour 2024 à 2028, j'espère avoir une chance de faire partie de cette équipe, parce que c'est pas la compétition en tant que telle pour le coup, parce qu'il y a peut-être moins de frissons que dans un Open d'Indonésie ou que dans une Thomas Super Cup en Chine. Peut-être, je sais pas. Mais quand même, dans sa carrière, quand on a côtoyé, quand on a eu la chance de faire partie des officiels qui ont tourné sur des grosses compétitions mondiales, on pense forcément aux Jeux Olympiques. C'est la plus grosse. Hein.
Un peu comme les athlètes.
Bien
Un
sûr,
peu
bien
comme les
sûr.
athlètes qui,
Bien
pour eux, les
sûr.
Jeux Olympiques, c'est pour les athlètes, pour les bénévoles, enfin pour les juges de ligne, pour tout le staff
Forcément.
technique, puis
C'est la récompense suprême.
c'est ça.
Forcément, si tu me poses cette question-là, ben, je te dirais oui, celle
C'est ça.
que j'ambitionne et j'espère pouvoir un jour faire, c'est celle-là. Mais c'est un petit peu compliqué, parce
Et
qu'il y a beaucoup
2024 à
d'éléments.
Paris.
Mais oui, j'espère, mais j'espère ne pas payer le fait d'être français. Il n'est pas
De payer.
d'usage de payer de payer ma nationalité, c'est-à-dire
Ah,
le
ouais.
fait que je sois français, de ne pas me nommer parce que je serai français. J'espère, mais j'espère ne pas payer ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément un avantage.
C'est
Alors,
comme.
enfin, de l'avis des personnes qui décideront, de mon avis, ça l'est, puisque je connais parfaitement l'organisation française, mais
Ouais.
peut-être que c'est pas moi qui décide, et puis je vais pas me mêler de décision, mais effectivement, Paris ou Los Angeles en 2028, ben, moi j'ai envie de dire peu importe. Forcément un des formats.
Oh ouais, c'est bien normal, comme tu dis, c'est ce à quoi aspire tout le monde, c'est de faire cette
Bien
compétition-là
sûr.
pour dire à un moment donné, ben regarde, si je suis arrivé un peu, j'ai fait ce que je devais faire pour arriver là, donc quelque part c'est une reconnaissance.
Voilà, je considère un peu comme
Ouais,
ça.
ouais, ouais, ouais. Alors après, aurais-tu une anecdote cocasse ou pas? De ce que tu as vécu comme arbitre. Quelque chose qui peut être drôle ou moins drôle, là, mais on préfère le drôle, je
Alors,
t'avouerai, mais
j'avoue, j'ai réfléchi à ta question et j'avoue avoir bugué là-dessus. J'ai quelques anecdotes, mais dont je me souviens, mais j'ai pas envie d'en parler parce que c'est des anecdotes qui, même si je ne citerai pas de nom, une fois de plus, etc., c'est des anecdotes qui pourraient mettre en difficulté certains collègues. Franchement,
c'est correct.
j'en ai pas qui soient intéressantes
OK.
pour le commun des mortels.
Non,
Du coup,
mais puis
j'en
regarde.
ai pas trouvé.
Eric, c'est correct, là, tu sais, il n'y a pas d'obligation de réponse. Donc, non, c'était à l'occasion, tu sais, des fois, tu peux. Mais c'est correct, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, selon toi, quels sont les pays les plus respectueux des officiels?
Alors là, clairement, je ne sais pas si c'est un pays, mais je vais citer un continent, l'Asie.
Ouais. Ouais, bah j'ai.
L'Asie, c'est quel que soit le pays où on va en Asie, on est excessivement bien reçu, très respecté, très bien considéré, et dans tous les pays asiatiques, vraiment. Et moi, j'ai un peu, d'ailleurs, on me l'avait dit, mes collègues sont donc arbitres de terrain, arbitres de partie, pardon.
Ouais.
Internationaux en France me l'avaient dit, tu vas voir, Eric, quand tu vas en Asie, c'est autre chose. Il y a un respect de la fonction d'arbitre, il y a un respect de la fonction de référé, et tu es considéré, tu es quelqu'un d'important, ce qui n'est pas le cas en Europe, hein, dans plusieurs pays européens. Il y a une bonne considération de l'officier technique, mais pas dans les mêmes proportions que ça peut exister en Asie. Moi, je l'ai vu dans absolument tous les pays où je suis allé en Asie. Là, je peux te donner une anecdote, par contre. Ma toute première expérience en Asie, c'était pas un découvre-tout maintenant, c'était pas la peine d'analyser, c'était un tournoi très sympathique avec des gens charmants. J'avais fait l'Open du Vietnam. Et c'était ma première expérience asiatique. Je n'étais jamais allé en Asie, ni en tant qu'officier de badminton, ni même en tant qu'individuel. Jamais j'étais allé.
Ouais.
J'ai débarqué à Ho Chi Minh et j'ai eu un accueil pendant toute la semaine. Fantastique, j'ai trouvé ça juste incroyable. Et là, effectivement, j'avais quelques anecdotes, mais je n'avais pas pensé à celle-là. Et j'ai vécu une semaine où je me suis dit, mais waouh, quel respect, quel plaisir de vivre ici avec des gens avec qui tu communiques, avec qui te respectent, qui te reconnaissent, qui t'apprécient. Donc pour le coup, bon, moi je suis assez humaniste, hein, j'ai fait des études de sociologie, j'ai toujours tendance à apprécier un petit peu tous les peuples dans lesquels je me rends, etc. Mais là, franchement, je me suis dit, ah oui, je ne connaissais pas l'Asie, c'était un très très bon départ. Et donc, depuis, j'ai toujours, à chaque fois que je suis convoqué en Asie, je dis, voilà, super, super, je vais encore me régaler pendant une semaine, parce que c'est vraiment des gens admirables, gentils. Et puis, avec cette reconnaissance et ce respect qui fait la petite marge de plus par rapport à mon continent, en tout cas. Je connais peu l'Amérique finalement, parce que je suis jamais allé. J'ai failli, mais ça a été annulé, les tournois. Et puis, si le Covid s'est un petit peu courant fin du premier semestre, je retournerai, parce que je vais au Canada normalement, au mois de juin. Mais je connais peu l'Amérique, mais en tout cas, si je fais un comparatif entre les deux continents que je connais les mieux, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie maintenant, parce que j'ai quand même un petit peu baroudé en Asie. Franchement, très clairement, tous les pays asiatiques sont extrêmement accueillants.
Mais je pense qu'ils le sont dans la vie de tous les jours aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est ça, c'est que là, je vois pour la petite histoire, c'est au Québec. Au Canada en général, au Québec en particulier, on a de plus en plus de joueurs d'origine asiatique. Et c'est ça, dès le plus jeune âge, dès nos plus petites catégories, les jeunes U13, U15, et il y a de plus en plus donc de joueurs d'origine asiatique. Les seuls parents qui viennent à la fin du tournoi pour saluer l'officiel, ce sont des parents asiatiques. C'est les seuls. Il n'y en a pas d'autres. Alors, ils ne le font pas tous, on s'entend, mais il y a toujours 3, 4 parents qui passent à la table de contrôle à la fin ou avant qu'ils quittent, parce que des fois, bah, ils quittent plus tôt, leurs enfants sont pas en finale, ou peu importe. Même si on a pu des fois avoir des situations un peu serrées avec eux, parce que ben leur garçon a été sanctionné pour telle et telle chose, peu importe. À la fin de la partie ou à la fin de leur tournoi, ils passent à la table. Merci beaucoup. Toujours très amical, très serviable. Comme je te dis, même s'il y a eu à un moment donné une tension, regarde, c'est oublié.
Bien sûr, beaucoup de
Donc,
sportivité, beaucoup de. Je n'ai que des bonnes expériences en
ouais.
Asie.
Et Yves Lacroix, quand tu dis tu vas aller en Asie, il trépigne. Je pars quand? Oh, oui, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Tu peux patienter quelques instants, je reviens, ça a sonné à la porte, je m'excuse.
Ouais, c'est Christian, moi, ouais. Ouais, mais pas Christian, et puis.
Parfait, ça. Donc, non, c'est ça. C'est ça, les Asiatiques. Mais je m'attendais à cette réponse-là. Tout le monde. Tout le monde me dit ça. C'est l'Asie. Sans différencier.
Moi, je suis vraiment amoureux de l'Asie. J'adore ces pays. J'adore tous les pays asiatiques.
Ah ouais.
J'y suis bien, je suis bien. Alors, j'y suis bien parce que les gens sont excessivement gentils, bienveillants, etc. Mais j'y suis bien aussi pour le climat. Parce que, comme tu le sais, Christian, en France et en Bretagne en particulier.
Mais non.
Pas...
il pleut un petit peu.
Il fait pas 30 degrés toute l'année. Ah ouais. Et donc, du coup, j'ai aussi, en plus de ces personnes que j'apprécie énormément, et qui sont très bienveillantes, très sympathiques, j'ai le climat, quand j'arrive là-bas, quand je sors de l'avion, je me dis waouh, ça y est, je suis arrivé.
Ça y est.
Ah, je vais passer une bonne semaine, il fait chaud, il fait humide, j'aime bien ça, moi j'adore ça. Donc, voilà, je suis bien aussi pour ça, en plus.
Et quand est-ce que tu déménages là-bas?
ma femme est beaucoup moins fan de l'Asie. On l'aime bien, mais voilà,
ouais.
Le climat européen aussi.
Bah oui. Bon, cool. Pour tout, donc, qu'est-ce qui est le plus facile à gérer en tant qu'arbitre en chef, juge-arbitre, et le plus difficile, selon toi?
Ça, c'est une question difficile quand même, parce que qu'est-ce qui est le plus facile et le plus difficile? Ça dépend de la façon dont tu vas le faire. Donc, je vais répondre comme un normand. Il n'y a pas de choses faciles et difficiles. Il y a des choses, à mon sens, sur lesquelles tu dois être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus concentré, des choses qu'il ne faut pas louper. Il y a des erreurs de règlement que tu n'as pas le droit de louper en tant que juge arbitre. Donc, par exemple, pour répondre à ta question, je vais la prendre à l'envers. Je vais dire qu'est-ce que je donnerais plus facilement à mes adjoints sur une compétition où je suis juge arbitre principal. Et ben, par exemple, la conception des tableaux, la vérification des tableaux, ou les taux, des choses comme ça, j'ai tendance à pas trop donner la main parce que je sais que là-dessus, si je me trompe, si on se trompe, on nous le reproche, on ne nous pardonnera pas. Il y a des choses qu'on ne nous pardonnera pas. Après, le relationnel, que ce soit avec les joueurs, avec les team managers et avec les arbitres et les juges de ligne, j'ai envie de dire, si on est sympa avec eux, ils sont sympas avec nous quand même. Donc, la meilleure façon de bien gérer un tournoi, de faire en sorte que le tournoi se passe bien, c'est d'essayer, alors tout en gardant bien sûr l'assurance de respecter les règlements, etc., sans faire de favoritisme, en essayant d'être absolument tout le temps, et de ne pas céder quand l'objectivité du coup est un peu bafouée et qu'on doit prendre une décision qui désavantage à l'adversaire, mais en toute objectivité, si on est sympa avec tout le monde, les gens sont sympas avec nous. Moi, je l'ai remarqué tout le temps, et là, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour les team managers. Un team manager qui me demande quelque chose, par exemple, sur une compétition par équipe, il dit « Ouais, je me suis bourré, vous avez envoyé ma liste, mais en fait, je voudrais changer ça, etc. » Je dis « Bon, attends un petit peu, parce que du coup, j'ai un peu préparé, mais si je peux t'arranger le coup, et que ça gêne personne, je vais essayer de le faire. » Le lendemain, on lui dit, je lui envoie un petit texto en disant oui, j'ai trouvé une solution, finalement, j'ai trouvé quelque chose qui rend ça membre. Et bien, pendant toute la semaine, ça va être des gens charmants parce que ils savent qu'on est dans un état d'esprit qui est fait pour passer un bon moment dans une passion qui nous anime tous, de l'habitude. Avec les arbitres, c'est pareil. Avec les arbitres, si on n'a pas une relation trop austère, parce qu'il peut arriver, ou il est arrivé, que certains référis soient trop distant, trop austère vis-à-vis des arbitres, pour pas être non plus bras-dessus, tous les soirs, avec des copains à voir jusqu'à l'heure, mais en tout cas, profiter d'une semaine de tournoi pour essayer, dès qu'on a un petit moment de libre, de discuter un petit peu avec les uns, avec les autres, pour montrer qu'on est, finalement, on fait partie d'une même équipe, et puis quand il y en a un qui fait les choses bien, lui dire, très bien, ton arbitrage est vraiment, t'as bien assuré sur ce match-là. C'est vrai, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de choses fausses ou d'essayer de flatter les gens. Moi, je dis ce que je pense, et de temps en temps, ces communications avec les arbitres, ces communications avec les joueurs et les team managers, Franchement, j'ai rarement eu de mauvaises relations avec qui que ce soit. Et en tout cas, je me suis rendu compte qu'à partir du moment, mais je le savais avant de faire du badminton, hein, donc à partir du moment où on est courtois, où on est bienveillant avec les gens, en général, ils sont bienveillants avec nous.
Non, ouais, il te
Donc,
retourne la même.
ben, moi, c'est ce que j'ai constaté, et pas seulement en badminton. Donc, je pense qu'on est là pour la même passion, tous. On veut que ça se passe bien. On a, nous, en tant que préférés, en plus, ce côté application quand même des règlements, parce que même si on voudrait être gentil, ben, on applique quand même les règlements. Et
Ah
des
oui.
fois, ils sont pas favorables aux joueurs. Mais en même temps, même si on applique les règlements, à un moment, si on l'applique et qu'on l'explique, je vais donner un exemple d'un joueur à qui on va mettre une amende pour une tenue, parce que la tenue est réglementaire. J'ai beau vouloir avoir des bonnes relations avec les joueurs, j'ai beau parler de là pour vouloir réprimander qui que ce soit, quand je suis appelé par un arbitre au meeting point parce qu'on me dit, ben voilà, par rapport à ce que tu nous as dit au briefing, la tenue n'est pas réglementaire là. Je confirme, j'essaie de convaincre le joueur à mon tour, si ça n'a pas déjà été fait, ou lui rappeler les conséquences qu'il va y avoir sur le fait
C'est
qu'il
ça.
ne veuille pas ou qu'il ne puisse pas changer de tenue. Je vais le faire de façon très courtoise, mais je vais quand même appliquer le règlement en disant, je te préviens, ça, je vais le mettre dans mon rapport et ça va coûter quelques sous. Et ben, ça se passe bien. Donc on peut à la fois appliquer le règlement tout en étant courtois et bienveillant.
Bien sûr.
Donc, c'est un peu l'esprit, et je pense que quand on agit comme ça, en général, ça se passe plutôt bien, voire très bien.
Ouais.
Relation de confiance, c'est-à-dire qu'il faut respecter les gens et il faut leur faire confiance. Moi, je te parlais de la petite mauvaise expérience que j'avais eue, la seule anecdote un peu négative. J'ai beaucoup de tournois, où d'ailleurs, quand je prépare mes tournois, je le vois, il y a une chose qui m'intéresse, c'est la liste de mes armes. Parce que, il y a certains tournois, je me dis, peut-être qu'il va falloir un petit peu serrer le jeu. Est-ce que le niveau, les origines, les nationalités des arbitres sont en concordance avec le niveau du tournoi et le pays d'accueil? Ou est-ce que je me retrouve sur, par exemple, un championnat du monde, une sélection BWF, où ils ont sélectionné tous les meilleurs arbitres? Je me dis, en termes d'arbitrage, franchement, il ne va pas se passer grand-chose, normalement. Hein, parce que quand tu as des très bons arbitres, ben forcément ton travail à toi, il est moins axé sur le terrain. C'est-à-dire que tu as encore des choses à contrôler, bien sûr, et à être vigilant toujours, y compris sur le terrain quand même. Mais en tout cas, le fait d'avoir des arbitres de haut niveau, des juges de ligne, qui également, ben forcément, va simplifier la vie. Donc à un moment, il faut leur dire merci quand même.
Ah oui.
C'est aussi grâce à eux que notre vie est sans doute simplifiée sur un tournoi. Donc, communication, respect mutuel,
Ah ouais,
c'est
ah ouais.
pour
Non,
moi
définitivement.
les clés d'un bon tournoi.
Et c'est ça que tu regardes donc avant le tournoi, tu regardes comment tu vas être entouré, par qui, comme tu
C'est
dis, puis.
important. C'est
Ah ouais.
important parce que quand par exemple, j'ai pas seulement la qualité des arbitres, parce que certains je les connais, d'autres je les connais pas, donc j'essaie de ne pas partir avec trop d'a priori, et même si je les connais, même si je sais qu'il y a quelques arbitres qui sont excellents, il y en a chez nous d'ailleurs, même si je sais pas, je regarde quand même tout le monde, parce que j'essaye tout le temps, j'essaye vraiment tout le temps, et je crois que les arbitres qui ont travaillé avec moi le savent. Je ne suis pas de ceux qui regardent les grades pour définir les finales. Je suis de ceux qui regardent la partie, qui regardent comment elle a été managée, comment elle a été prise en charge, prise
Ouais.
en main, gérée. Et très souvent, les meilleurs arbitres ont les meilleurs matchs, mais pas toujours. Et il m'arrive très très régulièrement, vraiment très régulièrement, presque une fois par tournoi, que je nomme sur notre finale un arbitre qu'on n'aurait pas prévu en début de semaine, que personne n'aurait dit non en début de semaine, et que moi j'ai trouvé très bon pendant la semaine. Je dis voilà, il est très bon. C'était pas un des cinq plus gradés de la semaine, mais il a été très bon, donc voilà. Donc j'ai aussi je pense que les arbitres ont besoin qu'on les regarde arbitrer. Alors ceux qui sont à très très haut niveau, un petit peu moins parce qu'ils savent déjà ce qu'ils valent et leur niveau est quand même assez constant, mais ceux qui sont à un niveau un petit peu en dessous, Ils ont besoin qu'on les encourage, et ils ont besoin qu'on les regarde, et ils ont besoin parfois de communiquer, et de temps en temps d'une reconnaissance. Alors, ou une reconnaissance verbale, comme ça, de façon informelle, ou de temps en temps, ben, tu vas faire une finale dimanche. Moi, oui, oui, je vais faire une finale dimanche, parce que je t'ai trouvé vraiment très très bon au début de la semaine, et je crois que tu mérites. Voilà, c'est un peu ça la liaison avec les armes.
Ouais. Et pour une note qui va dans le même sens, c'est que Yves, donc tu connais, m'a dit Christian, quand Eric est là, je sais qu'il va tout faire pour m'aider à prendre les meilleures photos. On a des demandes avec certains arbitres en chef. Il dit avec certains arbitres en chef, ça va pas passer. Avec Eric, il y a toujours moyen d'essayer. C'est pas toujours possible là. C'est pas. Eric dit oui tout le temps. Non. C'est comme tu disais, Eric va essayer de trouver un moyen de nous accommoder pour rendre notre rôle plus facile.
C'est ce que je te disais à l'instant. J'ai tendance à citer les team managers, les joueurs et les arbitres, mais c'est aussi un juge de ligne qui me demande quelque chose. C'est aussi un photographe. C'est aussi un organisateur qui me dit est-ce que je peux faire ça. Je connais le règlement. Je sais ce qui est possible. Je sais ce qui est acceptable, et quand c'est acceptable, ça facilite la vie à tout le monde. Bah, parfois,
c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, je voulais te le dire, parce que Eric m'a dit, Yves m'a dit, Eric, pour ça, puis tu vas sur beaucoup de tournois, Yves est peut-être encore sur plus de tournois. Il fait ses tournées asiatiques, puis il me dit, regarde, c'est sans aucune commune mesure, là, on sait, comme toi, tu sais ce que tu peux attendre des gens, parce que, et je dirais pas que lui le fait, là, mais je serais surpris qu'il fasse ça, mais connaissant Yves, tu sais, qu'il regarde, ok, sur telle compétition, ça va être qui l'arbitre en chef, ça va être qui les arbitres de partie, peut-être qu'il le fait.
Je pense que tout le monde fait un peu ça, les arbitres qui regardent aussi, tout le monde fait un peu ça, chacun a sa propre idée, et puis c'est à chacun d'entre nous d'essayer de meilleur, d'essayer d'être meilleur avec tous, eux, de se dire, ben, celui-là, c'est pas quelqu'un à qui ça s'est hyper bien passé la dernière fois, il n'a pas considéré comme un ennemi, ben, je vais essayer d'être encore plus fort pour lui montrer ce que je vois vraiment. Donc je crois que c'est bien qu'on regarde chacun qui y a dans le monde. Moi, je regarde beaucoup mon entourage. Hein.
Bah, puis on a des affinités, un cadre réglementaire, mais.
Mais c'est une espèce de mayonnaise quand même, c'est-à-dire qu'en tant que préféré, on va jouer toutes nos forces, on sait nos quelques faiblesses, on sait toutes nos forces et on se dit, voilà, si on fait ça, c'est nos forces et on se dit, voilà, si on fait ça, normalement ça marche bien. On peut se tromper de temps en temps, mais normalement, si on va dans le bon sens et qu'on est bienveillant et qu'on fait confiance, qu'on respecte les gens, ça se passe bien.
Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'arbitrage en chef ou dans le juge arbitrage? C'est quoi pour toi les qualités? Tu sais, ça prend quoi? Alors, c'est sûr qu'à ton niveau international, ça prend du temps, mais tu sais, peut-être à un niveau
L'envie déjà d'avoir du contact avec les gens et d'être du relationnel, la disponibilité, parce que forcément. Il en faut beaucoup, puisque pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose, parce qu'un référé, il commence pas son tournoi quand le premier match est lancé, il termine pas quand le dernier match est lancé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail avant et beaucoup de travail après. Et d'ailleurs, ce que je dis avec les gens que je forme en France, c'est effectivement, il y a des juges arbitres à ce niveau, hein, bien sûr, en régional, parce qu'au niveau, ça n'existe pas, j'espère. Mais normalement, ça n'existe pas à haut niveau. Au niveau régional, il y a des juges arbitres qui préparent pour moi quelques heures avant. Forcément, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce que moi, je m'imprègne de mes tournois plusieurs semaines avant. Alors, les 5 semaines avant, 6 semaines avant, on n'y passe pas 3 heures tous les jours. Mais on commence à envoyer cette checklist, poser des questions, aller voir sur Internet comment était la salle l'année d'avant, voir des photos. On commence à s'imprégner, et puis donc, plus on se rapproche du tournoi, plus il faut s'investir et affiner sa préparation. Donc, pour répondre à ta question de départ, hein, quelqu'un qui commence, ben, c'est la disponibilité. Alors, suivant le niveau, ça va être plus ou moins, mais la disponibilité. Après, beaucoup de travail très personnel quand même, parce que finalement, même à un premier niveau, il y a quand même beaucoup de choses à savoir, à apprendre ou à savoir, ça dépend des règlements ou des règles. Donc ça nécessite quand même pas mal de temps, hein, de disponibilité. Et puis, si on n'est pas quelqu'un qui a envie d'échanger, de communiquer, si on n'est pas un bon communicant, ça ne va pas être facile d'être gérer. Et la communication, elle est importante, et un peu d'abnégation de temps en temps, et beaucoup de respect des autres. Moi, ce que je dis, ça me fait penser ta question à ce que je dis, à ce que je forme une fois de plus, parce que je commence par ceux qui sont au niveau départemental et régional. Et je leur dis, si vous préparez bien votre moment, ça va bien se passer. Maintenant, au début, ils ont tendance à apprendre les règles et les règlements. Ils les apprennent par cœur, etc. Et puis, quand quelqu'un vient les voir, ils sont un petit peu braques. Et puis, ah non, la règle, ça. Bah, c'est comme ça qu'on commence, parce que bah, pour les moins longs, c'est comme ça qu'ils commencent. Et puis, très vite, je leur dis, OK, maintenant, vous connaissez les règles. C'est bien, vous avez fait quelques tournois, vous connaissez les règles, mais visiblement, parce que j'ai quand même beaucoup d'écho dans mon positionnement de formateur hein, dans ma région, donc j'en parle de « Ah oui, c'est du genre de cas, il est très très strict, il est très très… » Je dis maintenant tu connais les règles, parce que souvent on se cache derrière les règlements pour essayer de faire valoir ses compétences, et puis au bout d'un moment, plus le temps va avancer, plus il va falloir assouplir son fiche arbitrage, parce qu'on a une maîtrise des règlements, et du coup, aller vers les gens. Et après, ben, les choses vont naturellement être de plus en plus sympathiques à faire, parce que c'est aussi agréable de ne pas se prendre la tête toute la journée à se garer sur des règlements, des choses comme ça, c'est sûr, ouais. C'est pas très, très intéressant. Et puis du coup, quand on a maîtrisé totalement cette partie réglementaire, eh bien, il faut passer au niveau communication, relationnel, bienveillance, respect d'autrui. Et là, bah, voilà, on est un acteur de compétition de badminton comme les autres. Alors, un peu plus impliqué que les autres, souvent, mais on est un acteur. Ça fait partie du jeu et on fait en sorte. Moi, ce que je disais à mes joueurs, c'est quand la compétition, parce que des fois, certains disent ah ouais, c'est super bien passé, j'ai été très bon. Alors, je dis bah, quand la compétition, c'est super bien passé, moi, je dis souvent ça comme anecdote à mes gens de forme. C'est que l'organisateur a été très bon, enfin, c'est mal passé, c'est qu'il n'avait pas été suffisamment bon. Donc voilà, faut un petit peu aussi relativiser, parce que quand ça s'est bien passé, peut-être que j'ai envie d'y participer, probablement, j'espère, mais l'organisateur n'a souvent pas été très mauvais non plus. Parce que même si on a un très bon arbitre, si on a un mauvais organisateur, ça ne marche pas non plus. Donc il faut les deux, et plus il y a de communication, de respect mutuel, de confiance entre les deux, ça va marcher. Mais bon, ouais. travail et disponibilité quand même, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul. Quand mes collègues me disent « Ouais, Eric, tu as de la chance, allez, tu vas à l'international, machin », je dis « Ouais, mais j'ai passé quelques milliers d'heures à travailler. » Hein, voilà, hein, j'ai pas fait ça comme ça en claquant des doigts. Hein, donc, à votre tour, faites-le. C'est possible pour tout le monde. C'est vraiment possible pour tout le monde. Il faut travailler et il faut aimer ça quand même.
Ouais. Moi, un juge arbitre en chef me fait penser à un chef d'orchestre. Un petit peu.
Oui.
T'es là pour que la symphonie soit belle, qu'il n'y ait pas de trop de casseroles qui tombent, ou voilà. En tout cas de faire en sorte.
Mais sans musicien, ça ne marche pas.
C'est ça. C'est que ça prend de préférence des bons musiciens. Et si toutefois t'en avais un qui était pas bon, ben c'est toi en tant que chef d'orchestre de le relever.
Absolument.
C'est un peu comme ça que je vois le rôle de.
C'est tout à fait comme ça que je le vois aussi. C'est-à-dire notre rôle, c'est de veiller à ce que tout se passe bien. Et puis quand on voit que quelque chose commence à dévisser, essayer d'y remédier et donc toujours être dans l'anticipation et dans la réaction. Et d'essayer d'anticiper, mais pas de façon brutale, de façon cordiale. De façon cordiale, bienveillante. Moi, il m'est arrivé de temps en temps, c'est rare, parce que maintenant j'ai la chance de glisser sur les compétitions où il y a beaucoup de bons arbitres. Mais il m'est arrivé de temps en temps, quand je voyais un arbitrage, à mon sens, pas à la hauteur, de prendre un arbitre à part, mais à part, pas devant tout le monde. De la même manière, quand on décline quotidien, je fais une remarque parce que j'ai vu un arbitre faire ce qui, de mon point de vue, n'était pas bon ou pas suffisamment bon, je ne vais pas leur arrêter de dire bon, machin, ce que tu as fait hier, c'était pas bien. J'ai dit attention, j'ai vu certains d'entre vous faire ça, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait de vous. Je ne vise personne, je ne regarde personne, chacun, parce que c'est des gens qui sont intelligents, ça se dit ah, c'est peut-être pour moi ça, parce qu'effectivement c'est une boulette que j'ai faite, mais je n'ai visé personne. Donc, d'une certaine manière, j'ai respecté les gens tout en appuyant sur les points qui méritent d'être améliorés pour la continuité du
monde. Non, c'est bon, vraiment bon. Là, on va tomber dans le un peu plus concret, une question un peu plus concrète, là, enfin concrète. Que penses-tu du nouveau règlement sur le service à 1m15?
Moi, j'en suis très satisfait. Sincèrement, c'est pas parfait. Alors, c'est déjà beaucoup mieux que ça n'a été, hein, parce que ça a évolué tous les ans. Hein, il y a des améliorations régulières depuis. Au début, ça a été beaucoup controversé, beaucoup critiqué, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, tout ça.
Des joueurs danois ou je sais plus quoi là.
Des joueurs en général.
C'est ça, des joueurs.
Mais globalement, qu'est-ce qu'on a constaté très peu de temps après la mise en place de ça, c'est que ça évite la controverse quand même. Ça n'empêche pas de temps en temps un joueur de se plaindre, de moins en moins, beaucoup moins qu'avant. Alors ça réconforte les arbitres. Alors les arbitres de très haut niveau n'avaient pas de problème avec cette règle de la règle ancienne. Mais les arbitres d'un niveau un petit peu inférieur se rassurent. Ils ont une marque qui va leur permettre de faire un jugement. J'ai vu par le passé également des situations où même sur des tournois internationaux, parfois, le juge de service n'avait pas le niveau suffisant pour être juge de service sur international, alors que c'était un bon arbitre. Parce que la fonction de juge de service, je pense que c'est un peu la chose qui a changé, c'est que certains très bons arbitres, et moi je me souviens quand j'ai commencé au niveau international, quand j'étais juge arbitre européen, j'avais tendance sur les finales les plus serrées, par exemple un diplôme de Nice, il y a des pays qui sont un peu toujours dans le fight, je mettais mes meilleurs arbitres en juge de service sur ces matchs-là parce que je savais que ça se jouait là. Et qu'il ne fallait pas se tromper. Aujourd'hui, ça nous laisse en tant que référé plus de latitude, parce que c'est vrai que la règle de 1m15, même si l'expérience joue, ça nivelle un petit peu le niveau des juges de service. Il y en a toujours qui sont meilleurs, mais ça nivelle le niveau, et ça permet à l'arbitre de service d'avoir une protection contre la critique. Il essaie, il a vu ça objectivement, il a toujours officié de la même manière, il a toujours mis sa tête de position de son corps de la même manière, il n'y a pas de raison normale que ça soit trompé. Et quand le joueur vient discuter auprès de l'arbitre, parce que normalement il ne peut pas discuter avec
l'arbitre,
à ce moment-là, on peut lui expliquer que voilà, on l'a vu avec
ce soir.
Qu'est-ce que tu veux discuter de plus? Il n'y a pas de ralentis, quand bien même il y aurait des ralentis, parce qu'il y en a quand même parfois sur internet qui arrivent à positionner des caméras pour voir, tout dépend de l'axe de l'œil. Donc, si la caméra n'est pas bien positionnée, le résultat de la critique n'est pas objectif. Donc, moi, je le trouve bien, vraiment bien. Alors, on améliore le système d'année en année, mais globalement, c'est quand même un soulagement pour les juges de service en particulier.
Ouais, c'est ça. Comme tu dis, ça évite des discussions.
On dit voilà, moi, je l'ai vu au-dessus. Ah, je l'ai vu au-dessus. Qu'est-ce que tu veux?
Ah ouais, non, c'est clair. Ouais.
Moi, je suis plutôt pour.
Comment arrives-tu à concilier? Puis là, je te demande pas de rentrer dans ta vie privée. Hein. C'est pas le but de la question, mais comment arrives-tu à concilier l'arbitrage au badminton avec ta vie de famille? Parce que ça doit te prendre quand même pas mal de temps. Tes vacances, j'imagine.
Ah ben, je n'arrive pas.
Tu sais, je ne vis plus.
Je n'arrive pas, je ne vis plus. Ma vie est en enfer. Non,
j'imagine.
C'est difficile. C'est difficile pour ma femme. Ça l'a été tout le temps, parce que j'ai toujours été très, très impliqué quand j'étais président de club, vice-président de ligue, élu de fédération. J'ai toujours été très impliqué. Et en préféré international, encore plus, parce que du coup, avant, je partais deux, trois jours au niveau continentale 4-5 jours. Maintenant, c'est plutôt 8-9 jours, 10 jours.
C'est ça.
Donc, on est tous, c'est vrai que c'est pas facile. Pour mon employeur non plus. Mais ma chef adore le sport. Donc, du coup, elle est très conciliante sur mes départs. Elle est plutôt conciliante. Je fais en sorte de ne pas partir à des moments stratégiques. Parce que, autant on est nommé par BWF sur un tournoi, c'est pas nous qui choisissons, autant on a le droit quand même de dire attention, moi, la première quinzaine de mai, ça va être compliqué pour moi. Ou la troisième semaine d'avril, je ne peux absolument pas. Ça, on a le droit de le dire quand même. Hein, sur BWF, vous allez écouter tout ça. Donc, mais pour ma femme, c'était un peu difficile, j'avoue, de rester une semaine. Alors, la conciliation, parce que tu me disais comment arrives-tu à concilier leur méthode. Ce que je fais, c'est que, en général, je fais à peu près 6 tournois internationaux par an. Je l'amène déjà sur un tournoi.
Ok.
Je ne vais pas l'amener sur chaque tournoi, mais quand j'ai mon planning annuel, en fonction du lieu, en fonction de la période de l'année, en fonction de ce qui pourrait lui plaire pour rester un petit peu de temps. Du coup, je propose un tournoi par an et ce qu'on fait, c'est que sur un des tournois que je fais par an, on reste un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'on fait un tournoi d'une semaine et puis une semaine ou deux de plus. Et souvent, c'est pendant la période estivale parce que ça nous fait de vacances d'été. Donc, c'est un petit peu comme ça que je concilie parce que j'avoue que pour elle, c'est pas facile. Les 6 semaines parties et plus, souvent plus. Plus les réunions, les workshops, etc. J'ai beaucoup de préparation le soir. Je travaille le soir pendant qu'elle est autre chose. Donc c'est vrai que ça gâche un petit peu ma vie de famille, mais c'est ma passion. Et elle le sait.
Ouais, non, c'est ça.
Voilà, je dis avec ça, je conçois mal de ne pas faire ça. Je vais te donner une anecdote. Parce que tu me demandais des anecdotes sur certains sujets là-dessus. Quand j'étais joueur, avant que je n'arrête ma carrière, carrière de joueur interrégional, je me suis cassé les ligaments croisés du genou. Donc, j'ai arrêté le sport pendant quelques semaines, le temps de préparer tout ça. J'étais tellement insupportable à la maison qu'elle m'a demandé quand je reprenais le sport.
Et oui.
Donc, pour le badminton, si demain je devais rester à la maison de force, je crois que malgré moi, je suis insupportable parce que c'est ma passion et c'est ce que j'aime faire. Donc,
mais c'est ta femme qui appellerait la BWF en disant à signez-le.
J'en ai mis une application, s'il vous plaît.
À signez-le, s'il vous plaît.
C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Ça commence à être difficile. Ça fait un an que je ne sais
pas. Ouais. Ça commence à être dur. Mais le confinement est difficile pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne là, pour ça. Ok. Mais c'est ça, ouais, c'est pas évident. C'est beaucoup de conciliation, comme tu dis, avec la famille, avec le travail aussi. Ça, c'est vrai que c'est bon.
Ouais, avec le travail aussi. Mais avec le travail, ça se passe bien. Mais j'ai deux filles, j'ai deux grandes filles, donc ils ne sont plus à la maison maintenant. Donc il y a plus de. Voilà, elles, ça les gêne moins. Donc je leur raconte mes départs, etc. C'est plus ma femme qui se retrouve toute seule à la maison pour moi.
Ouais.
C'est pas.
Ouais, non. J'imagine. Là, après la question, on revient un petit peu sur ce que tu avais dit au départ. As-tu entendu parler du programme de la BWF? Donc, pour toi, ça va changer quoi dans ta vie d'arbitre, de juge-arbitre, d'arbitre en chef?
Ça change mon investissement. C'est-à-dire que ça ne change pas ma motivation qui a toujours existé, qui est encore, mais un peu plus parce que. Pour deux choses, déjà il faut que je sois plus disponible personnellement, professionnellement, parce que j'ai au minimum 6 tournois par an, plus quelques actions ce soir, des formations, des workshops, des choses comme ça, des travaux à faire à la maison. Donc ça change cet aspect-là, la disponibilité, et ça change aussi l'envie de ne pas décevoir, parce que je me dis finalement. La plupart des juges arbitres des WDF, ils font un ou deux tournois WDF par an. Alors, souvent, au niveau continental, ils leur ont proposé l'opportunité d'en faire un ou deux de plus, mais ils font 3 ou 4 tournois par an en moyenne, comme je faisais avant. Moi, je faisais 3-4 tournois par an, je faisais 2 WDF, 2 WDF en Europe. Aujourd'hui, j'ai encaissé ce succès. Je me dois de ne pas décevoir et d'avoir un niveau de ce qu'on attend de moi. Donc, je me mets peut-être un peu plus de pression et je travaille peut-être encore un peu plus pour ne pas décevoir et délivrer ce qui m'ont permis de faire pour que voilà, je ne sois pas déçu en disant ben, on s'est trompé de gars et en fait, on n'aura jamais vu le même niveau. Donc, voilà.
Oh ouais. Ça t'apporte un soutien financier je...
Oui, un petit peu aussi, ouais. Okay. Mais tu veux, c'est franchement, c'est absolument pas la motivation, parce que la motivation, c'était de ne pas perdre le haut niveau et de rester dans tous ceux qui faisaient suffisamment pour moi. Mais j'avais peur de perdre la main. Et c'est d'ailleurs une peur que j'ai en ce moment avec le confinement, parce que, tu vois, au bout de 2 ans que j'étais semi-professionnel, et j'avais le sentiment, dans les 3-4 derniers tournois, de me dire, je commence à avoir des automatismes, vraiment des automatismes. Et je trouvais, et c'est d'ailleurs l'objet de l'UE, c'est la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour qu'on ait des gens qualifiés, qui soient performants, qui connaissent les méandres du système de compétition, à tous les niveaux. Donc, et je crois que je commençais à avoir ces automatismes. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, c'est que le dernier tournoi que j'ai fait, c'est le All England, au mois de mars 2020. Juste avant la pandémie. Pendant, pratiquement. Il y avait déjà des mesures de masque, de gel, etc. Ça a été très, très bien organisé. Mais ça va faire, parce que dans le meilleur des cas, je reprendrai peut-être en mars, mais on attend pour l'instant une confirmation des tournois. Donc ça fera 12 mois. Et j'ai un peu l'impression que ces automatismes que j'avais fini par acquérir, et bien finalement, je ne repars pas à zéro, bien sûr. Mais je vais devoir travailler encore un peu plus pour ce tournoi-là pour essayer de me remettre dans le bain avec en plus des contraintes supplémentaires liées au COVID. Mais donc, c'était l'avantage, c'est que tu travailles plus pendant un certain temps, pendant un an et demi, 2 ans, et après, finalement, les choses deviennent pas naturelles, mais un petit peu quand même. Il y a un petit peu plus de naturel dans les tensions et c'était un vrai plaisir d'arriver sur un tournoi parce que mes premiers tournois avec le WF, j'avais du stress quand même.
J'imagine.
Et depuis un an, j'étais beaucoup moins stressé à mon sens parce que j'avais eu le sentiment de plutôt maîtriser les choses et d'avoir créé au fur et à mesure des années avec les uns les autres, les arbitres, les team managers. Une espèce de compréhension mutuelle et de confiance mutuelle.
Comme une routine, comme au travail, une routine.
Un peu comme une routine au travail, voilà. Une maîtrise du sujet, parce qu'on le fait de façon très régulière, donc du coup, on le maîtrise mieux. Je pense que ça apporte beaucoup de ce point de vue-là. Je crois que c'était clairement l'objectif de WWF, c'est d'avoir des gens qui ne fassent pas un ou deux tournois par an, parce qu'après, on repart à la vie professionnelle, après, on revient, les règles ont changé, etc. Les règles évoluent beaucoup quand même avec le WWF. Donc, il faut sans arrêt se mettre à niveau. En faisant un tournoi tous les 2 mois, c'est plus facile qu'en faisant un tous les 6 ou 8 mois.
C'est ça la volonté de la BWF et pour l'instant de semi-professionnaliser la fonction d'arbitre, soit de partie ou en chef, mais peut-être que demain, ça va peut-être être une professionnalisation, sait-on jamais?
Peut-être, c'est possible. C'est possible.
J'imagine qu'il y a des gens qui aimeraient vivre de ça.
Bien sûr.
J'imagine.
Bien sûr.
Selon toi, est-ce que ça va motiver certains officiels à franchir le pas, cette semi-professionnalisation? C'est un peu comme toi, t'es motivé, donc toi ça rentre parfaitement dans ce que tu veux faire, mais ça va peut-être motiver d'autres personnes, je sais pas. Est-ce que tu penses que ça pourrait être le cas?
Moi je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. C'est pas une question de. C'est pas ce qui va motiver ceux qui se lancent aujourd'hui, parce que pour arriver entre un lancement d'un référé aujourd'hui et le niveau semi-professionnel, il y a quand même pas mal d'étapes.
Ouais.
Et on n'y arrive pas quand même du jour au lendemain. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse se dire Moi, je vais me mettre au juge arbitrage, je veux l'arbitrage parce que je vais être semi professionnel dans 5 ans, dans 10 ans, enfin, plutôt dans 15 d'ailleurs. J'ai du mal à concevoir ça.
Parce non, mais que, peut-être des arbitres ouais, qui sont nationaux.
Ah oui, voilà, qui sont nationaux, des très bons nationaux à vocation internationale. Bah oui, forcément. Si on est déjà à ce niveau-là, oui, effectivement, la compétition, elle commence là. Et il y a probablement des gens qui vont essayer d'y arriver parce que, oui, parce qu'ils ont envie de ce statut-là, de se professionnaliser eux-mêmes. Peut-être qu'ils sont, ils ont une motivation vers leur job qui est moins grande aussi, je sais pas, ou ils ont un job qui leur permet de le faire.
Oh ouais, oh ouais.
Ou un job qui permet de le faire à côté. Alors, sur la semi-professionnalisation, sur la professionnalisation, si ça arrive un jour, à n'importe où, il faudra faire un choix. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de complexe. Hein. Mais j'ai pas le sentiment que ça. Sauf qu'on est déjà au niveau international, mais sur un niveau en dessous, je ne crois pas, moi, que ça puisse engendrer des vocations. Ça ne suffira pas.
Okay.
Parce que il faut quand même un petit paquet de concours de circonstances pour que ça arrive. Il faut beaucoup de travail. Et puis, voilà, une situation à un moment donné qui nous permet d'accéder à ce niveau-là. Et puis au niveau du dessus, et puis au niveau du dessus. En tout cas, moi clairement, ça n'a pas été un très franchement, ouais. Quand il y a eu ce programme-là, d'ailleurs, pour être pas sincère, j'ai un peu 18 au départ. Ah, je voulais rester bénévole. Et puis après, quand on m'a expliqué le contexte, j'ai dit, ben oui, finalement, ça m'intéresse parce que moi, 4 tournois par an, ça m'allait bien. Ça me permettait, à mon sens, de rester à un bon niveau. Quand on m'a dit si, je me suis dit, waouh, 6 ou plus, ça va être compliqué. Avec mon employeur, avec machin, mais j'ai tellement envie de garder ce
truc-là
que je vais trouver des solutions, et des solutions, je les ai trouvées avec mon boulot, on a trouvé des arrangements.
Mais je te posais
c'était vraiment, c'était pas un point de vue financier, c'était pas ça.
Non, je te posais la question parce que, initialement, tu sais, j'ai déjà fait l'entretien avec Jean-Philippe Bergès. Je sais pas si tu le connais.
De
Nouméa, là. Et puis, je lui posais la question par rapport à l'arbitrage. Puis, il me dit, Christian, puis comme tu m'as dit, tu sais, c'est un investissement, c'est des conciliations au niveau de la famille, au niveau du travail, un investissement financier. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour les arbitres de partie, puis même, il y a des arbitres de partie ici de niveau panaméricain. C'est un investissement financier là. Les billets d'avion sont pas toujours payés.
Ah oui, d'accord.
Je sais pas, tu sais la différence entre arbitre de partie et puis juge arbitre. Est-ce que toi, la BWF te dit, regarde, Eric, tu vas aller à peu importe la ville. Est-ce que toi, tu payes ton billet d'avion?
Non, je paye pas. C'est pour ça que mon point de vue est un peu différent effectivement celui des arbitres. Okay. Je sais qu'il y a des arbitres à travers le monde qui sont de leur poche, qui doivent payer pour leur déplacement, ou partiellement, ou totalement. Donc effectivement, pour les arbitres, c'est un peu différent. Pour les juges arbitres, parce que l'arbitre, en fait, il est, sauf quand il est convoqué par BWF pour les semi-pro ou pour les meilleurs BWF qui sont convoqués sur les events, mais pour la plupart des arbitres, ils ont une invitation du pays organisateur. Donc, oui. Par exemple, à l'Open de France, quand on invite des arbitres, on leur donne une place. Il y a une place réservée pour vous sur cette compétition-là, mais vous payez votre billet. Oui. Donc, c'est ou l'arbitre lui-même, ou sa fédération, qui paye le billet. Et effectivement, la Daily Allowance, pour les semi-pro, ils ont une Daily Allowance aussi d'ailleurs. Donc, du coup, effectivement, ça, je comprends la problématique un peu différente pour les arbitres. Mais nous, les référés, nous, on est toujours convoqué par ou Badminton Europe ou BWF. Donc, comme on est convoqué par eux, on est indemnisé par eux, et on est surtout, et notre billet d'avion, il est payé par BWF. Donc, effectivement, moi, avant d'être semi-professionnel, je n'avais aucun frais. Je n'avais aucun frais de ma poche. Donc, effectivement, je comprends qu'on puisse le voir un petit peu différemment. Moi, je n'ai pas du tout vu comme ça, parce que moi, déjà,
je
dépensais pas d'argent. effectivement, si on m'en donne, ben, je suis content, mais ce n'était pas l'objectif du tout. J'ai jamais perdu d'argent en étant référé.
Ok. Non, c'est pour ça que je me disais, tu sais, peut-être que le statut semi-professionnel peut peut-être intéresser certains arbitres de partie pour dire ben, que les compétitions sur lesquelles ils sont convoqués, comme l'arbitre en chef peut être convoqué donc, sur la compétition XYZ, de dire ben là, du coup, l'arbitre de partie, ses vols sont pris en charge.
Oui.
Donc, ça peut peut-être motiver plus pour l'arbitre de partie, si c'était le cas, qu'il se fasse payer le billet d'avion. Ouais. Mais c'est ça.
Alors que pour nous, il n'y a pas de changement. C'était déjà.
Ouais, toi, c'est payé, c'est donc, payé.
Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas.
Ok.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de garder ce niveau-là et d'avoir pour tournoi-là par an. C'était vraiment ça dans ma position première.
Ouais, non, je comprends. Puis du coup, peut-être que les semi-professionnels vont quelque part être un petit peu avantagés ou priorisés, peut-être. Ce qui ne serait pas injuste quelque part, puisque c'est quand même un investissement de leur part, là. C'est pas rien, là, de vouloir être.
Quand tu dis prioriser, tu veux dire quoi?
Bah, peut-être sur certaines compétitions. Non, tu dis ça, c'est plus sans aucune.
Non, mais clairement, BWF, sur certaines compétitions, veut absolument avoir un semi professionnel ou deux parfois. Et puis sur d'autres, pas forcément, ça dépend. Et le rôle de semi-professionnel, il n'est pas seulement un rôle de leader ou un rôle de chef des chefs, etc. Ce n'est pas du tout ça, pas ça que ça en tout cas. Il est aussi un rôle de formateur. Parce que ce que fait BWF, de façon très intelligente, d'ailleurs, ça très bien. Ils mettent un semi-professionnel en juge arbitre adjoint et ils mettent un juge arbitre en juge arbitre adjoint. Et ils mettent un juge arbitre moins expérimenté, mais qui a vocation à être un très bon juge arbitre dans le futur, en juge arbitre principal. Comme ça, juge arbitre principal et juge arbitre adjoint, franchement, tu le connais aussi, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas le même métier. Hein. Il y a vraiment un gros écart de stress, de préparation, de concentration, de tout. C'est vraiment quelque chose de très différent. Et donc, un juge arbitre adjoint, si c'est toujours les semi-professionnels qui sont juge arbitre, et toujours les autres qui sont adjoints,
ouais, c'est pas...
franchement, ça apporte pas grand-chose. Si la compétition elle sera normalement bien gérée, mais ils ont fait l'espoir, les autres, de faire une belle carrière. Ouais. Donc, BWF, très régulièrement, va positionner un juge-arbitre un peu plus jeune en juge-arbitre principal en mettant un semi-professionnel en adjoint. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que nous, on est en assistance, on est investi, etc., mais c'est bien. Et par ailleurs, on est également mentor en quelque sorte de quelques jeunes juges arbitres. Donc la nouvelle génération qui arrivera dans les années 2000.
Ah, c'est ça, c'est que ça forme là.
2030. Chaque jeune arbitre BWF a un mentor parmi les semi-professionnels à qui ils peuvent s'adresser quand ils ont une question.
C'est ça.
Et puis, en général, BWF essaie de nous faire faire un tournoi avec notre mentee tous les ans pour que, voilà, on ait une espèce de.
Ben, ça forme la relève.
Durable. Voilà,
c'est
aussi un de nos jobs, former la
relève. Ah ouais, non, définitivement. Mmh. C'est une bonne chose. Dans l'application de certains règlements, penses-tu qu'il serait utile d'apporter des améliorations, des nuances, adoucissements, durcissements? Selon toi, c'est quoi l'avenir peut-être? C'est un peu bizarre ma question, mais comment tu verrais la fonction évoluer?
Alors, ta question au début portait sur le règlement. Alors, elle m'embêtait un petit
peu. Ouais, règlement. Oui, règlement.
En fait, on n'est pas là, nous, en tant que cette série, pour faire évoluer le parti. On n'est pas là pour donner notre point de vue sur les règlements en disant que ça ne doit pas se passer comme ça, etc. Bon, par contre, lors d'une compétition, si de façon récurrente, certains points de règlement nous paraissent un peu problématiques à appliquer ou nous paraissent un peu décalés par rapport à ce qu'on attend, on va le faire savoir. On a un rapport de référé pour ça. On va le faire savoir, mais on se contente de le faire savoir. C'est-à-dire que on n'est pas là pour essayer de rédiger des règlements.
On s'entend que tu n'es pas décisionnaire.
On a vu ce point-là. On n'est pas du tout décisionnaire. C'est le conseiller qui décide. Mais c'est vrai que par contre, on est en, et ça nous arrive souvent, on est, on on est quelques-uns à, de façon régulière dans nos rapports, dire ben voilà, moi je trouve dommage que ce point de règlement-là ne puisse pas être amendé parce que ça nous a posé quelques problèmes dans ce tournoi-là et ça m'est déjà arrivé dans un tournoi précédent. Donc voilà, je vous signale ça. Mais après, moi je ne suis pas au clair parce que ce n'est pas notre job de faire ça. Mais c'est un peu notre rôle. Donc, bah, comme je te disais tout à l'heure, les règlements, ils évoluent beaucoup. Hein. À une époque, ils évoluaient une fois par an. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le statut de
oui.
Ils sortaient en impression une fois par an. Et puis, chacun se procurait son statut de book et il l'avait sur son tournoi pour le voter, etc. Bah, maintenant, ça ne marche plus parce qu'il y a des aménagements de règlement plusieurs fois par saison. Donc, du coup, le statut de book, du coup, il est plus dupliqué. Hein, parce que, et par contre, le règlement en ligne doit être consulté par les référés de façon très régulière. Alors souvent, le secrétariat de WWF, les officiels techniques, nous envoient un mail en nous disant « Attention, il y a eu des aménagements dans ça, ça, ça. » Mais quand bien même ils le feraient pas, ils le font en général, mais quand bien même ils le feraient pas, c'est notre rôle de référé d'aller voir tous les points des laws et des regulations où il y aurait une modification d'un règlement. Et pas seulement le dire, mais le comprendre, parce que s'il y a une modification récente, il y a deux points qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le comprendre, c'est le premier point, et surtout il faut le mentionner dans son briefing, parce que si c'est un point très récent, alors qu'on sait bien, tout le monde s'en plaint, mais en même temps on n'a pas le choix, dans le briefing, beaucoup de choses identiques sont dites de façon régulière, hein. Certains managers sont faits en disant j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà entendu ça, mais en même temps, certains aspects, on n'a pas la possibilité de ne pas en parler. Par contre, quand il y a des points nouveaux, on a l'obligation d'en parler.
De les mentionner donc, quand c'est nouveau.
De les mentionner, ben oui, parce que justement, ça peut poser des problèmes sur le tournoi, parce que on dit, ah oui, je ne savais pas, c'était comme ça avant. Donc c'est le rôle du référé aussi de dire attention, à partir de ce tournoi-là, maintenant, il y a une modification qui va s'appliquer. Et moi, souvent, d'ailleurs, dans les briefings de team managers et d'arbitres, quand c'est des règles d'arbitrage, je le mentionne ou en bas ou en rouge, pour vraiment attirer l'attention sur ce point-là, parce que les autres points, par définition, tout le monde les connaît un petit peu, mais donc, notre domaine d'intervention, c'est pas de faire les règles, c'est de susciter de temps en temps BWF en disant, moi, ça me pose un problème, mais je vous laisse décider. Mais par contre, quand ça a été décidé, notre rôle est vraiment de dire attention, il y a eu un changement sur ce point-là et il faut être vraiment vigilant sur ce point-là.
Oh ouais, oh ouais. Ouais, d'attirer l'attention sur les nouveautés.
D'attirer l'attention, ah oui, clairement.
Ouais.
Clairement.
Oh ouais,
ça, ouais. C'est ça, à mon avis, une faute de ne pas le faire.
La dernière question officielle, après j'en aurai une ou deux, mais rien de bien.
Oui, bien sûr.
Comment évalues-tu le niveau d'arbitrage des officiels dans le passé au moment présent? Donc selon toi, ça a été quoi la plus grosse évolution en termes d'arbitrage entre bah, quand tu as débuté il y a un certain nombre d'années et maintenant, ouais. Selon toi, c'était quoi la plus grosse évolution du rôle de l'arbitre en chef?
La gestion du terrain, le management du cours peut-être assez clairement. Parce que c'est vrai qu'on demande aux arbitres de beaucoup communiquer, de bien manager, d'anticiper, de bien tenir les joueurs. Et de communiquer avec tout le monde. Donc ça, je pense que ça a beaucoup évolué. Je pense très sincèrement que le niveau d'arbitrage tend vers le haut. Ça devient de plus en plus serré. Il y a de plus en plus de très bons arbitres. Donc forcément, toutes ces évolutions-là, tous ces appels qu'il y a régulièrement, parce que l'arbitrage, il y en a aussi beaucoup. Et je pense que ça apporte énormément. Parce que ça permet de uniformiser. On a en plus un certain nombre de documents maintenant qui sont régulièrement actualisés par l'équipe Malcolm Banan et l'équipe d'assesseurs de la WWF sur un certain nombre d'attitudes à avoir pour uniformiser les attitudes pour aller sur le cours, en étant sur le cours, etc. Et ça, je pense que c'est aussi une grosse évolution. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être, quand j'ai commencé moi, des styles d'arbitre, alors c'est un peu plus stéréotypé du coup maintenant,
ouais.
Alors, peut-être que certains pourraient le voir comme étant quelque chose monotone, mais moi j'ai envie de dire, si c'est stéréotypé et que c'est bien fait, c'est vraiment, ça clarifie la fonction et le rôle de l'arbitre. Donc, moi j'aime bien, je trouve ça vraiment. Le niveau est nivelé vers le haut, très clairement. Il y a vraiment un gros niveau d'arbitrage, un gros niveau de professionnalisme maintenant.
Voilà. Moi, j'avais aussi l'impression que certains, chaque arbitre en chef avait, j'exagère un peu là, mais avait sa manière de juger arbitré, qui lui était propre. Alors que là, maintenant, il y a une manière auquel il faut se conformer parce que c'est important de. J'ai cette sensation-là.
Oui, alors tu as raison, j'avais pas compris ta question comme ça parce que quand tu parlais de niveau d'arbitrage, je pensais que tu parlais vraiment d'arbitre de partie.
Arbitre de partie, arbitre en chef.
Le référé, c'est un peu différent, effectivement, ce que tu dis est vrai. Je l'ai beaucoup constaté par le passé, je le constate encore aujourd'hui quand même. Il y a quand même très clairement les arbitres de ça, et moi je m'en rends compte. Okay. Et chaque référé a ses manies, a des choses sur lesquelles il est strict, des choses sur lesquelles il est souple. Donc oui, ça existe quand même parce que même si les règlements ont été peaufinés, même si les ITTO, c'est des ITTO maintenant, Instructions to Technical Officials, et pas les recommendations qu'il y a d'avant, c'est vraiment des instructions, donc on est supposé vraiment tous les suivre. Donc de ce fait, le niveau et l'attitude des référés et des arbitres tend à être la même, néanmoins l'aspect humain, et tant mieux j'ai envie de dire, montre des différences, et en particulier je pense sur les référés, plus que sur les arbitres. On montre vraiment des différences de juge arbitrage. Je suis moins bien placé que les arbitres pour en parler, mais j'en suis convaincu. Mais c'était très flagrant il y a quelques années, ça l'était un petit peu moins maintenant. Quelques années on disait ça, les arbitres qui arrivaient au niveau, quand j'étais référé européen et que j'avais passé des nouvelles, on m'a dit tu vas voir les assesseurs, si t'es un assesseur européen ou si t'es un assesseur asiatique, c'est pas la même façon d'assesser, etc. Aujourd'hui, on tend vers aussi une standardisation au niveau de l'assessment, ils standardisent également leur méthode, mais il y a quand même des attitudes qui sont individuelles, qui sont personnelles, et moi je trouve que c'est bien.
Oui.
C'est bien aussi, parce que il faut garder l'humanité, il faut garder. Ouais.
Puis tant que ça reste dans le cadre réglementaire aussi, il faut respecter les règles.
On est un peu d'humanité, on n'est pas des robots, donc déjà en arbitre, c'est pas des robots, en référie, ça l'est. Pas non plus, et moi je souhaite que ça reste comme ça. Il faut garder le champ d'investigation, donc il faut rester dans les règles qu'on nous a fixées, les règlements qu'on nous a fixés, et après, il y a quand même une grande partie de qui peut être adaptée d'un aspect technique à l'autre. Il faut que ça reste comme ça. C'est très bien.
Définitivement. Ok, ça met fin aux questions officielles. Moi, j'ai une petite question officieuse. L'anglais, est-ce que c'est quelque chose qui t'a posé des problèmes ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ?
C'est quelque chose qui m'a posé des problèmes. Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que ça ne m'a pas posé de problème, mais j'ai dû beaucoup travailler.
J'imagine.
Tu le sais, Christian, les Français sont pas bons en anglais. Les Européens du Nord sont très bons, donc tous les Scandinaves, Danois, Suédois, Norvégiens sont très bons, mais les Français et les Européens du Sud ne sont pas très bons en anglais. Parce qu'en France, on n'a pas de télévision
en
VO, un peu plus maintenant, justement, avec des chaînes où on peut mettre la VO. Et moi, depuis, je ne regarde qu'en VO maintenant, quand je regarde des films à la télé française. Parce que, pour intérioriser. Mais j'ai beaucoup de travail. Parce que j'avais mon anglais universitaire, donc quand j'ai commencé, j'étais pas tout jeune. Enfin, quand je suis arrivé au niveau international, j'étais pas tout jeune. Donc du coup, j'ai dû me remettre à l'anglais. Donc j'ai acheté un logiciel d'anglais, j'ai travaillé à distance. J'ai commencé à regarder les films en VO dès que je pouvais. J'ai écouté des émissions de radio en allant au boulot le matin, j'avais un casque comme ça.
Okay.
J'écoutais des émissions de radio en anglais pour intérioriser un certain anglais. Et je le fais encore aujourd'hui, un peu moins régulièrement, parce que mon anglais a bien progressé. Mais au début, je savais que c'était une de mes faiblesses. Et autant, je pense qu'un arbitre qui n'a pas un très bon niveau d'anglais peut s'en sortir, un référé qui n'a pas un très bon niveau d'anglais, il ne s'en sortira pas parce qu'on est en communication avec absolument tout le monde et ce n'est pas possible de faire une prise de l'anglais. Alors c'est vrai qu'à Québec, au Canada, vous êtes bon en anglais, forcément.
Oui, les officiels au Québec sont quasi tous bilingues.
Ah oui, voilà, c'est ça. Mais en France, franchement, c'est une lacune, c'est vraiment une lacune, je le regrette beaucoup. Donc du coup, j'ai dû travailler plus que les autres référés européens. J'ai dû plus travailler que les autres. C'est pour ça que je disais que beaucoup de disponibilité, beaucoup de travail pour arriver au niveau, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je pense que mon niveau d'anglais est bien. J'essaie toujours d'améliorer, hein, comme on dit en détail. Franchement, j'étais pas fier. Il y a encore 5-6 ans, j'étais pas fier de mon anglais. Je savais que je faisais beaucoup de fautes. J'en fais encore, mais des petites maintenant. Mais c'est un vrai travail. Pour nous, c'est un vrai travail et un vrai handicap. Et souvent, je me disais au niveau européen, je disais, on fait les référence courses. Il y a des Anglais, il y a des Danois, il y a des Irlandais, et puis nous, on est au milieu de ça. Et il va falloir qu'on ait le même niveau qu'eux, enfin, il va falloir qu'on ait le même niveau du arbitrage qu'eux, avec un niveau d'anglais, pas le même forcément, mais en tout cas s'en approcher le niveau maximum, et la barre est beaucoup plus haute pour nous que pour ceux qui sont anglophones comme vous
parlez. Et effectivement,
c'est un avantage.
Un officiel français bon, qui parle anglais avec un officiel asiatique qui parle anglais.
ça va, ça se passe bien.
Ouais, parce
ça,
que...
ça se passe bien parce que le niveau d'anglais n'est pas très élevé.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est, tu rentres pas trop dans les détails, tu restes assez superficiel.
Voilà, avec un vocabulaire qui n'est pas très, très élaboré, alors que quand tu parles avec des vrais anglophones, ils parlent plus vite, avec parfois des accents, parce que du coup, ils sont très habitués à parler anglais, et du coup, c'est un petit peu plus difficile à suivre. Alors moi, j'ai compris l'anglais très vite, c'est-à-dire que j'arrivais à suivre toutes les conversations très très vite. Et après, franchement, tout le reste, c'est travail.
Communiquer.
J'ai vraiment ramé pour arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, quand on regarde une série à la télé française, c'est en anglais. Ma femme est sur ça. Alors, maintenant, je dis, comme tu viens en voyage avec moi une fois par an, ça te permet aussi de ne pas être trop décalé. Donc, elle a envie d'apprendre. Du coup, tous les deux. Donc, en fait, ce que les Français ne faisaient pas par le passé, c'est regarder les films et les séries quand on peut.
Et effectivement, avec Netflix, avec toutes ces plateformes où tu peux avoir l'anglais.
C'est très utile pour nous. Bon. Pour d'autres, c'est naturel, pour nous, c'est un apport indispensable.
Parfait. Bah, écoute, bah, en fait, ça clôt le côté questionnaire. T'as toujours, j'imagine, tu es toujours en contact avec Ernest, avec l'ami, avec Evelyne. Maton.
Oui. Ils sont. Evelyne commence à être un petit peu effacée maintenant. Alors Evelyne, elle est dans le sud-ouest de la France maintenant. Elle est en retraite. Elle est partie vivre dans le sud pour sa retraite. Mich, toujours impliqué dans la CNA. Moi, je l'étais jusqu'à ce mois-ci. J'y suis encore. Officiellement, j'y suis encore.
Jusqu'au changement de président.
Le président vient de changer. D'ailleurs, le président a été élu le 12 décembre. Ils sont en train, en ce moment, là, décembre-janvier, de refaire le conseil d'administration et les commissions. Donc, sur la prochaine commission, je ne me représenterai pas à la commission arbitrage. J'ai été 12 ans. 12 ans. C'est pas mal. C'est suffisant. Non, j'ai été plus que ça. Non, j'ai été plus que ça. J'ai été 16 ans, je pense. En tout cas, je laisse la place aux plus jeunes. Michel faisait encore partie récemment, et puis il y a une nouvelle génération qui arrive. On a une belle génération qui arrive, donc il faut laisser, à mon avis, la place aux autres. Il y a plein d'autres sollicitations.
Monsieur Sébastien Couval, qui vient de la Franche-Comté.
Oui. Seb. C'est un bon arbitre en devenir, hein. C'est un nouveau espoir international. Il est en belle progression, là. Au niveau européen, pour l'instant, il est. Je ne sais plus s'il est BE certifié ou s'il n'est pas loin de l'être.
C'est moi qui l'ai formé, Sébastien.
Ah, c'est bien.
Je blague avec ça, mais oui, Sébastien, en Franche-Comté, peu de temps avant que je parte, Bah, c'est ça, je l'avais, bah, il avait suivi le stage de formation, parce que ça prenait un arbitre national dans la région de Franche-Comté. Puis quand je partais, ben, j'avais dit, regarde, si quelqu'un est intéressé, puis il avait levé la main. Puis bah, déjà, c'est une excellente personne, déjà de base, Sébastien. Et vraiment, je ne suis pas surpris qu'il soit un bon officiel également.
Il progresse bien.
Ouais, vraiment.
Moi, je le connais peu parce qu'en fait, il est arrivé sur le niveau international, fédéral, quand moi, j'étais déjà parti. Mais je le côtoie, je sais qui c'est,
Oh ouais,
je le
il
vois
est.
sur les IFB, il est souvent sur les IFB, des bons résultats. Il est en bonne progression. On a deux très très bons arbitres aujourd'hui chez nous, qui sont Stéphane Benet, qui est du nord de la France, et Edgar Dito, qui est de Bretagne, qui est un arbitre excellent, excellent ici, qui deviendra un très grand arbitre.
Ben ici, tu dois connaître Jean-Guy Poitras.
Oui, je l'ai croisé parfois à des workshops avec les BDF.
Jean-Guy, ben je pense qu'il a pris sa retraite, je pense, du badminton.
Je connais aussi Eric
Oui.
Desroches, c'est ça? Qui est un excellent arbitre, vraiment excellent arbitre. C'est un de mes arbitres préférés, franchement.
Éric Desroches, Rémi Beaulieu.
Et Rémi Beaulieu, je connais aussi, que j'ai vu, qui est un bon arbitre, très bon arbitre aussi, que j'ai vu
Bah Rémi
l'année dernière.
a arbitré au Québec, mais en fait, il travaillait à côté de Montréal, Rémi, quand il est devenu arbitre international, arbitre de partie internationale. Elle est repartie au Nouveau-Brunswick. Éric est au
Oui,
Nouveau-Brunswick.
je
Puis Jean-Guy est au Nouveau-Brunswick. Bah, en fait, entre guillemets, c'est Jean-Guy qui a parti un petit peu ce qui reste de très bons officiels, là, c'est pas. Mais il y a quand même eu une aide. Il y a quand même eu une aide de Jean-Guy. C'est correct, là, ça reste de très très bons officiels. Donc ça a été bon pour la région. Ok, bah, écoute, je veux te remercier à nouveau. Les deux petites demandes, tu sais, la première demande, c'était, tu sais, si tu peux m'envoyer une photo.
Photo, oui, ça j'ai noté, j'ai pas noté la deuxième.
Pardon?
Tu m'as parlé d'une photo, tu me dis deux, c'était quoi la deuxième demande?
Ouais.
Ah, c'est
La
celle qui
deuxième.
vient.
Ouais, non, c'est correct. La photo, c'est en tenue d'officiel si tu en as une. La deuxième, en fait, c'est est-ce que tu peux me partager, tu sais, quand tu fais un briefing avec les officiels le matin des compétitions, m'envoyer. De quoi tu leur parles dans ton briefing le matin? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux faire?
Je réfléchis.
Je te demande pas un document officiel, là, tu sais, c'est.
Oui, je vais un briefing du matin, ça veut dire pas le premier briefing.
Bah, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à tes arbitres de partie?
Lors du premier briefing de compétition ou dans
Ouais, bah,
les... Peu importe.
peu importe. C'est quoi les messages?
D'accord.
Puis, je te dirais, c'est pas tant les messages techniques, c'est faites attention à la hauteur du. Je vais dire n'importe quoi. Faites attention à la hauteur du filet.
Non.
Plus c'est des messages pour les mettre en confiance, pour.
Tout à fait, tout à fait. La première chose, en fait, c'est une structuration qui est presque toujours la même, c'est-à-dire qu'on va les accueillir d'abord par essayer de les mettre en confiance, donc les rassurer sur le hôtellerie, restauration, etc., etc., sur les tenues, sur
C'est ça.
les défis qu'ils devront avoir 3 quarts d'heure avant chaque début de match le matin, etc. Et après, dans un second temps, on va aborder les problèmes spécifiques à la compétition, donc en leur montrant, alors moi en plus, je fais quelque chose que font pas tous les référés, pas beaucoup, certains qui le font maintenant. Je mets toujours une slide en fait de la salle avec beaucoup de flèches, de croix, de machin pour essayer
Ah,
de leur faire visualiser avec un stylet quelle est la direction qu'ils devront prendre pour les margin, margin off, etc.
OK.
Après, on aborde toutes ces problématiques d'abord pratiques. Donc, quand vous allez manger, est-ce que vous allez recevoir des allowances, comment vous devez être habillé, etc. La deuxième partie, c'est plutôt comment va-t-elle se gérer cette compétition-là, lors du briefing le matin, transport, aller-retour, à l'hôtel, est-ce qu'il y aura des
OK.
rotations d'arbitres, est-ce que vous aurez du temps libre. La troisième partie concerne vraiment la salle elle-même, c'est-à-dire le margin in et la quatrième partie, on va aborder les problèmes techniques qui ennuient les arbitres de très haut niveau, mais en même temps, il faut toujours les rappeler, c'est comme les managers, c'est les questions de règles. C'est-à-dire, sur cette compétition-là, c'est une compétition par équipe, il y a des règles particulières, ou alors les règles sur les tenues des joueurs, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, les 5 advertisements, parfois, ça ennuie les gens, ça, mais on ne peut pas ne pas le faire. Il faut qu'on dise beaucoup plus vite, parce que bon, ça dépend quel auditoire j'ai. Si j'ai des arbitres, je fais par exemple à la finale de la Thomas Souter Cup, avec que des arbitres de WWF, je vais leur montrer, pour qu'ils aient vu l'image, je vais leur dire, bon, vous connaissez tout ça, on passe à autre chose. Mais je monte la slide, mais pour que vous restez à l'expliquer pendant 1 minute 30, et ben je vais rester pendant 15 secondes. Mais je les mets quand même. Et puis la fin des briefings, on est obligé de leur parler, c'est une recommandation forte de WWF, du code de conduite des officiels techniques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur rappelle, en tant qu'officiel technique, qu'ils n'ont pas la possibilité de se faire photographier avec des joueurs
pendant un match,
ils n'ont pas la possibilité de communiquer, le betting est forcément interdit pour les officiels techniques. Tout ça, on est obligé de le dire. Et puis on termine par une note positive en disant, bon, ben, good luck, enjoy your week, ou quelque chose qui...
Ouais.
Donc, moi j'ai toujours la même structure, et c'est dans cet esprit-là.
Ouais. Non, c'est bon. Ok, bah Eric, merci beaucoup.
Ouais, t'en prie.
C'était bien sympa de te revoir. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Alors, tu vas venir au Canada, c'est ça?
Je vais venir au Canada normalement fin juin si le tournoi n'est pas annulé.
Ok, à Calgary, hein.
Calgary.
Enfin, non, c'est pas Calgary, c'est...
Si, je crois que c'est Calgary.
C'est pas Formeray ou un truc comme ça?
Moi, j'ai vu Calgary sur le premier truc. Alors maintenant, ça peut changer, hein, mais en tout cas, sur la première invitation il y a 3 mois, c'était Calgary. Maintenant, tout est un peu remis en cause, donc du coup, j'attends confirmation, les confirmations du lieu et de la date, mais c'était Calgary sur le premier truc.
En juin...
Ça va être difficile pour toi, hein. Ouais.
Bah là, je t'avouerais qu'au Canada, c'est un petit peu compliqué. Tu sais. Ça peut être possible avec des règles sanitaires particulières.
De toute façon, on ne sait pas, oui.
Mais je ne sais pas, on est en relation avec Badminton Canada, évidemment. Parce que juin, c'est loin et c'est proche en même temps. Mais bon, à voir. Regarde, si toututefois ça se fait, ben j'essaierai d'y aller. Ce sera l'occasion de se voir en vrai. Et d'ailleurs, tu sais, quand tu parlais de la Commission nationale d'arbitrage, c'est peut-être là aussi qu'on s'est côtoyé, parce que j'ai été quelques années à la Commission nationale d'arbitrage de la région Franche-Comté.
Ah oui, donc on avait une réunion annuelle avec toutes les régions. Donc aussi
à Paris.
Très probablement là, en début septembre.
Ouais, porte de je sais plus quoi, puis on était dans un hôtel, il y avait Mestonikos, il y avait toute la clique, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Eric, en tout cas, et puis je te donnerai un petit peu des nouvelles des suites de cet entretien.
D'accord.
Ça marche, merci à toi,
merci.
À très bientôt.
Ouais,
bye. J'ai perdu quelque chose.